Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Salut l'équipe, cette semaine j'ai une question pour vous. Vous préférez être un joueur All-Star, Jamal Murray ou Tobias Harris? Non, je délire. Personne, évidemment, ne veut être Tobias Harris. Mais du coup, plutôt joueur All-Star ou Jamal Murray? On le répète assez chaque année, les playoffs sont le juge ultime en NBA pour savoir qui est qui. Et depuis la bulle, en 2021, Jamal Murray est clairement un joueur all-time de playoffs. En même temps, rien de surprenant quand on y pense, car chaque grande discipline de ce monde a un Murray qui brille. Le cinéma à Bill Murray, le rugby à Murrayfield, le tennis à Andy Murray, la télé-réalité à les deux Murray, et donc les playoffs NBA ont Jamal Murray. Et il a brillé de mille feux après ce buzzer beater exceptionnel déjà rentré dans la longue histoire des playoffs. Sans oublier évidemment le seum intergalactique d'Anthony Davis, lui aussi devenu légendaire. Jamal Murray n'est peut-être pas encore officiellement un joueur All-Star, mais il est à coup sûr un joueur ultime de la post-season. Et ils sont nombreux, les joueurs All-Star, à nous avoir beaucoup déçus en play-off. En revanche, l'inverse n'existe pas. Alors vous, vous préférez être qui ? L'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des shows. Il fait moins 15 dehors en ce moment, on se gèle, mais on se réchauffe en regardant les playoffs. Et en plus, j'ai un meilleur duo cette semaine que Jamal Murray et Nikola Jokic dans le canap. C'est Steph Brun et Thomas Dufan. Comment ça va les frères?
Bel hommage, ça commence fort. Belle énergie, Erwan.
Belle énergie.
Bien réveillé.
C'est les playoffs, mon gars.
Il a bien dormi aussi.
Et puis j'ai très bien dormi. Et puis quand tu te réveilles qu'il fait 2 degrés, en général, paraît-il, le petit comme ça, t'es bien réveillé. Ça, mon Steph?
Salut les gars! On est des hoodies.
Magnifique veste, hein, bien équipé, beau tissu.
Merci champion, merci Erwan. Parce que c'est pas
merci
que...
de parler dans le micro, bâtard.
Merci champion, merci Erwan, merci. Voilà. J'avais une requête, j'aimais beaucoup cette veste. Donc merci à la livraison champion et merci d'avoir fait l'intermédiaire, Erwan.
Exactement, mais merci à nos amis. Hein.
C'était la veste du All-Star Game.
La veste du All-Star Game, c'est magnifique. Elle te scie à ravir.
Merci.
J'aime aussi ton petit tissu, tes couleurs d'été, même si la température...
C'est Milan mi-coton.
Milan mi-coton.
Là, c'est ambiance anglette.
Un peu anglette. Bon, j'ai quand même une grosse doudoune pour affronter le froid dehors.
Il manque les sébagos, si tu veux vraiment faire...
Elles sont arrivées.
Ou les birks.
Ou les birks. C'est vrai que c'est bagos, ça fait plus la boule, tout ça.
Ouais.
Les birks, c'est
la boule des pains.
La boule des pains. Allez, on va se lancer dans l'émission. On va d'abord vous annoncer quelques petites choses, comme d'habitude, puisqu'il y a des trucs qui vont arriver, comme Bilal Koulibaly qui vient cet après-midi. Donc, on est jeudi et vous retrouverez l'interview, l'entretien, on espère le plus long possible avec Bilal, dimanche midi sur la chaîne YouTube. On va se régaler à voir Bilal. On a plein de choses à lui demander.
On a prévenu Bilal que ça allait durer 2h30 parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à aborder.
Ouais, écoute, je l'ai bouclé jusqu'à demain matin.
Voilà, donc, ça devrait le faire alors.
T'as une question à poser à Bilal, Steph?
On pourra lui remettre tout à l'heure si tu veux.
Laissez-moi réfléchir.
Vous
prenez le dépourvu.
C'est ton métier, non? Un peu de créativité.
Le dépourvu.
Toi qui as fait de Jamel Comedy Club. Les podcasts, vous le savez, ça marche toujours aussi bien. On est ravis de pouvoir vous offrir ça sur toutes les plateformes disponibles. Je ne vais pas toutes vous les faire, mais voilà, vous pouvez retrouver nos émissions en podcast. Et puisqu'on parle de podcast, Thomas, on va faire quelque chose d'un peu spécial qui sort de l'ordinaire.
Tout à fait. D'ailleurs, Stephen va pouvoir l'apprendre aujourd'hui. Tu seras convié si tu es disponible. Le 5 juin à l'Apollo Théâtre, on va enregistrer un podcast en public. Donc vous pourrez venir participer pendant une heure avec nous. Ce sera sûrement autour des Jeux Olympiques, à un mois des JO, donc un mois et demi des JO. Donc il y a la billetterie qui est ouverte, vous pouvez y accéder et nous rejoindre pour vivre cette belle aventure ensemble. Qu'est-ce qu'il y a?
Apollo Theater à Harlem
À Paris. On a la prochaine fois, ce sera
Next step.
À New York. Mais voilà, en tout cas, on est ravis de faire ça. Ça faisait très longtemps qu'on n'a pas fait des trucs en public.
Vous avez bien filmé, etc. Vous êtes à l'aise en public, tranquille?
Oui.
C'est trop bien de faire des trucs en public.
Je pose des questions.
Bah oui.
Des surprises, des petits cadeaux.
Félicitations.
prévoir des petits trucs, des petits trucs sympas. Ouais.
Bon, allez, ils sont intenables là sur le canapé. Du coup, on va se plonger dans le sommaire. Un peu de discipline, Stéphane Brun, s'il te plaît. D'accord, on n'est pas les sangliers ici. Le sommaire avec des news, forcément. On va revenir sur les dernières ces matchs dans les séries, notamment le Miami-Boston hier soir, la plus fraîche. On va revenir aussi sur les New York Knicks qui mènent 2-0 face aux Sixers. Il y a beaucoup de choses à raconter. Donc voilà, ça sera dans les news. Le débat, évidemment, sur la série entre les Lakers, non, entre les Clippers et les Mavs, qui sortira vainqueur de cette série. Pour l'instant, il y a un partout. Il y a là aussi beaucoup de choses à raconter. On fera une palette. On reviendra, évidemment, on n'a pas le choix, sur le tir, le buzzer beater terrible de Jamal Murray qui a fait pleurer les fans des Lakers. Thomas a fait nuit blanche derrière.
Je suis pas buzzer beater sur le mec qui aurait voulu être meilleur défenseur de l'année.
Quelque part.
Le lendemain de sa déclaration.
On va analyser tout ça. Est-ce que c'est un bon choix d'avoir fait en sorte que ça soit Anthony Davis qui défende sur Murray, ou est-ce que les Nuggets ont été plus malins que ça? On aura une palette et on ouvrira évidemment sur le reste de la série. On finira par le quiz où Steph, ça fait longtemps que t'as pas gagné un quiz. Hein.
Bah, ça fait longtemps que j'ai pas joué surtout.
Non, aussi, mais ça fait longtemps que t'en as pas gagné. Hein.
Bah, peut-être que je suis à 0 sur 4.
Ah, voilà, tu fais moins le Mariol hein, quand c'est pas le kick a ding 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 ding.
Ça tacle le Moscato Show, la famille, comme ça.
L'autre, il va venir en bas, Vincent, ouais. Il va me dire alors, qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas content. J'ai rien dit, Vincent.
Allez, les news.
Allez, on attaque avec la série entre les Celtics et le Heat, le 1 contre le premier contre le 8e. Et Thomas, le Heat a encore réalisé un gros coup. Victoire sur le parquet du TD Garden, 111-101. Il y a un match extraordinaire de la part du Heat, avec notamment 24 points, 14 passes décisives de la part de Tyler Herro, et surtout cette stat fantastique de 23 paniers inscrits. C'est le record de franchise en playoff.
Ouais, extraordinaire match du Miami Heat. On connaît bien sûr la culture du Heat. On connaît leur capacité à switcher, à appuyer sur le fameux bouton playoff. On les annonçait morts, aller en 5 au maximum. Peut-être un expo à Miami sur le match 3 ou 4. Boston à survoler la saison régulière, ouais, mais y aller les playoffs, c'est un autre game, et surtout lorsque tu joues contre Miami. Et cette équipe l'a une nouvelle fois prouvé lors du match d'hier. Ils ont été exceptionnels d'adresse, disons-le, mais d'abord, t'as bien parlé d'attitude, l'attitude qu'a montré cette équipe hier soir, la force de caractère. Et on peut aussi parler tactique avec Spoelstra, mais c'est d'abord dans, voilà, sur le body language qu'ils nous ont régalé, tous ceux qui sont un petit peu hors de cette série. Donc énorme match, et puis voilà, le constat, c'est qu'ils récupèrent l'avantage du terrain avec cette victoire.
Écoute, cette victoire, elle est belle, mais pour moi, elle est presque insignifiante pour Miami, tellement elle est anormale, en fait, en termes d'adresse. C'est hors norme de mettre 23 tirs à 3 points sur un match de playoff, même si on sait que c'est une équipe qui a une énorme qualité d'adresse. Les Celtics prennent que 111 points. Quand tu prends 23 tirs à 3 points dans la gueule, tu peux t'attendre à un festival offensif. C'est bien, j'ai presque envie de te dire qu'ils ont sauvé l'honneur, parce que je suis pas sûr que ça suffit. Je suis pas sûr qu'ils soient capables de produire ce type d'adresse sur 4 matchs. Sur le match 1, et c'était peut-être refuser à prendre autant de tirs à 3 points en essayant d'aller percuter, parce qu'ils ont aussi sa qualité de drive et de percussion, et ça n'a pas fonctionné. Là, ils ont tenté leur chance, ils ont mis dedans. Maintenant, il y a trop de différences de niveau pour moi entre tant qu'il n'y aura pas Jimmy Butler, cette équipe pour moi ne pourra pas me dire ils peuvent faire quelque chose contre les Celtics. Alors, peut-être qu'ils vont me faire mentir parce qu'il y a l'âme de Heat.
Et parce qu'ils savent faire ça, tout ça.
Ouais, mais j'ai l'impression que ce match, il est surréaliste, en fait. Il est surréaliste.
Par contre, moi, ce que j'aime beaucoup avec le Heat, avant qu'on aille sur les Celtics, c'est ils se sont dit ok, notre philosophie, ça va être d'envoyer à 3 points. Voilà, on n'a pas d'autres armes, il faut qu'on rende ce match fou, et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça commence avec Nikola Jovic, qui envoie deux énormes bombinettes à 3 points, qui lance un petit peu le match, et puis derrière, ils sont dans cette volonté, dans cette philosophie jusqu'au boutiste de dire, eh ben, on relance et on tire à 3 points. Alors cette philosophie, ben, quand ça tombe dedans, forcément, tu peux la continuer. Si c'était pas tombé dedans, certes, maintenant, il n'empêche qu'encore une fois, tactiquement, ils se sont dit, on va faire ça, ils ont tenu, et finalement, ils vont s'imposer en playoff sur le parquet de la meilleure équipe de la ligue.
Ouais, moi de toute façon je pense qu'on est tous plutôt d'accord pour dire que à la fois personne pense que Miami va passer Boston. Enfin, tu vois, je pense qu'on est d'accord ensemble, mais d'un autre côté, on est tellement surpris par le fait qu'ils aient réussi à faire l'exploit de gagner un des deux premiers matchs et donc semer un minimum de doute dans la tête de Boston, que en fait c'est, t'as raison, c'est un exploit, ils vont pas mettre 23 points à tous les matchs, etc. Je pense qu'on est tous plutôt raccord là-dessus, mais je me dis, mais quelle force de caractère, comment c'est possible qu'ils aient gagné ce match, en fait, tu vois? Comment ils ont réussi? Comme par hasard, ça tombe sur eux qu'ils fassent un match légendaire.
T'as raison de parler de l'aspect psychologique, parce qu'on sait ce qui s'est passé la saison dernière, et que tu sais, t'es pas à l'abri que Boston puisse être impacté avec le fantôme du 8 en disant putain, ils sont encore venus nous casser les bonbons, alors que normalement, on doit leur marcher dessus, que Jimmy Butler est pas là, Terry Rozier est pas là, comme il s'appelle, le poste 3, là, de grande taille, qui est pas là non plus, Josh Richardson qui est pas là, et tu sais pas ce qui peut se passer dans une équipe qui a déjà été traumatisée l'année dernière face au même adversaire. Maintenant,
c'est un authentique exploit, t'as raison, ça c'est vrai.
Pour moi, c'est un authentique exploit. Après, j'ose espérer que Mazulia va aussi s'adapter défensivement en, justement, en arrêtant de les laisser courir et de prendre des tirs en première intention et de les stopper et d'aller presser la balle un peu plus haut, justement, pour les forcer à pas avoir ce rythme-là et pas avoir cette course-là et de jouer sur du demi-terrain. Maintenant, j'attends de voir aussi parce que, Jason Tatum a pas fait un énorme match non plus hier. Jalen Brown a plutôt été bon. Mais surtout le collectif du 8 qui a été bon. Martin a mis dedans. Tu l'as dit, Jovic a été bon. Ice Smith a été bon, ouais. Raquez a été bon, Tyler Hero, bon, il porte bien son nom de famille.
Duncan Robinson.
Tout le monde a été au diapason, et même Jimmy B, qui était en réhab, je sais pas où, dans un bar, regardait le match, il était content, mais.
En réhab dans un bar?
Enfin, en réhab. Il est en réhab, et puis il regardait le match dans un bar. Après, tu peux mettre une petite machine, quand même.
Il est en réhab pour son genou, donc.
Voilà. Mais j'attends de voir la suite, quand même.
Moi, justement, j'ai envie qu'on parle un petit peu de Boston, pour le coup, parce que, alors, je te dis, quand une équipe te massacre, te bombarde à trois points, on l'a tous vécu, ça arrive, c'est jamais simple à contenir. Maintenant, il y a les attitudes qui vont avec. Moi, l'attitude de Boston, hier, elle me gêne, elle me pose un problème. La série, elle est, pour moi, je pense qu'ils vont passer. Je les ai mis en finale, je pense qu'ils iront en finale si Giannis ne revient pas, notamment. Mais moi, hier, l'attitude me gêne. Cette équipe, et je veux avoir votre avis, joue comme si elle avait gagné trois titres sur les cinq dernières années, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc moi j'ai des...
On a fait le même débat exactement la dernière fois que j'étais là.
En fait c'est que quelque part il y a quelque chose dans cette équipe là qui est curieux. Hier quand Martin ils mettent dedans comme des cochons, rajoute un pas défensivement. Combien de fois, et Steph toi qui es un shooter, quand t'as pris des coups de chaud, quand t'attrapes, que il y a le défenseur, que t'attends de te cadrer et que t'attends d'armer sur sa coigne, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, pas 23. Alors certes, il y a des tirs d'un autre monde. À un moment donné, tu as le droit de rajouter un pas en plus parce qu'un mec est dans ton cylindre, c'est beaucoup plus dur de tirer. Et hier, je trouve que mine de rien, à leur niveau, ils ont des tirs qu'ils peuvent mettre.
Oui. Alors, il n'y a pas 23 tirs dans un fauteuil. Il y a des tirs compliqués. Mais c'est vrai que la confiance, elle a été engendrée par certains tirs ouverts que Boston a permis. Mais peut-être que Boston est dans cette mentalité déjà d'une, de se dire, bon, ils sont un peu chauds, ça n'a pas duré 48 minutes. Tu sais, on a tous connu ça.
C'est une mentalité de mecs qui veulent gagner des titres.
La première mi-temps, ça va s'arrêter. Finalement, c'est pas arrêté. Et de deux, il y a cette confiance que tu as acquise sur 82 matchs en disant que c'est pas grave, on va les taper, on va scorer de l'autre côté, à un moment donné, on va faire la différence et on va faire la bascule offensive parce que nous aussi, on est une équipe offensive, une équipe qui mettons dedans. Bon, pas trop hier parce qu'ils font 12 sur 32, je crois, à 3 points. Mais ils ont cette confiance qu'ils ont acquise sur 82 matchs en disant on est meilleur qu'eux. Au bout d'un moment, ça va passer, ils vont s'arrêter.
Moi, je suis d'accord avec vous. Le seul truc de cette défaite, elle vient concrétiser les énormes doutes que tout le monde a sur cette équipe. On n'arrête pas de dire est-ce que les Celtics vont choquer? Leur seul objectif, c'est d'aller en finale et de gagner la NBA, sans aucun doute. Moi, je viens de faire une comparaison avec les Denver Nuggets. Les Nuggets, ils affrontent les Lakers, on en parlait tout à l'heure, qui font un énorme match, ils sont à moins 20, ils font le run qui leur permet à un moment donné de revenir dans un money time et gagner. Hier, les Celtics, ils font un run qui doit leur permettre de revenir dans le match, d'affronter cette équipe dans un money time et de gagner. La différence entre ces deux équipes aujourd'hui, c'est la maturité. Tu parles d'attitude, machin, il y a 1-8, ils sont largement au-dessus. Bah oui, tu joues comme une équipe qui est au-dessus, ça fait partie du jeu. T'as domicile, c'est ta forteresse,
etc. Après, t'as les mecs qui passent à côté. Hein,
hier, ils font le run pour revenir et normalement, ça te permet toujours de gagner quand t'es largement au-dessus. Sauf que t'es face à une équipe qui est un peu différente et une autre qui est pas souveraine, qui a des doutes, tu vois.
Moi, t'as raison. Jouer Miami en playoff en plus, encore très compliqué. On sait que c'est peut-être le pire match-up avec cette fameuse ADN et qui n'est pas un mythe. Hein, ils l'ont encore prouvé hier. Il n'empêche qu'on va pas tout mettre non plus sur l'ADN du 8 hier soir. Moi, j'entends les attitudes. Moi, je vois quand Jason Tatum au match 1 qui dit à Vasquez, à Raquez, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pleurer tout. Gros, ils font les caïds. Ils jouent comme des mecs qui ont gagné des titres et jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont encore rien gagné. On leur souhaite. Le jour où ils auront gagné, le statut va changer. On l'a vu avec Denver. Mais je vois des attitudes qui peuvent me dire, peut-être m'inquiéter un petit peu. Maintenant, le grand changement cette année chez les Celtics, c'était aussi amené par deux joueurs, Porzingis et
Jrue Holiday.
Hier soir, les deux, ils passent complètement en traviole.
Oh, Porzingis qui a été très bon au match aller. On a aimé le fait que...
Au match 1,
où ils ont ciblé à l'intérieur, ils lui ont donné des balles, il a sanctionné, il est plus grand que Bam Adebayo, il est plus grand que tous les mecs, parce que ça change beaucoup chez le Heat. Il est clairement plus grand. Hier, mon gars, il s'est fait repousser, il finit à 6 points, à 1 sur 9 au tir, le seul panier qui marque, c'est le claquette dunk. Moins 32 de plus minus, franchement... Oui, quand on ta troisième option qui te permet d'avoir de l'alternance passe autant à côté, tu vas perdre le match.
Il a été dramatique et Jrue Holiday qui est censé être un stopper défensif, il est sur ce registre-là, il a été battu aussi. Voilà. Après, j'ai pas envie de remettre en cause sur ce match-là le niveau et les compétences de ces deux garçons-là, parce que je suis persuadé que c'est un match sans. J'ai envie d'espérer que ça, j'ai envie de croire que c'est un match sans.
Mais moi, je reste persuadé que c'est un match sans.
Oui, oui.
Après, là, les playoffs, alors, ne commencez pas à nous envoyer des. La culture de l'instant. Frérot, les playoffs, c'est la culture de l'instant. Chaque match a sa vérité. Là, on est en train de parler du match 2.
Il y a que la vérité qui compte, quoi.
Et pour le coup, sur ce match-là, parce que le match de Porzingis, parce que il est plus que maladroit pour moi. Il s'échappe. Il fait un truc que je déteste, il s'est échappé. Et ça nous rappelle le Porzingis qu'on n'aimait pas côté New York.
Après, il est souvent très loin du cercle. Hein.
Ben, c'est ce que je te dis, c'est ce qu'on appelle s'échapper.
Il a eu des hooks, il est court et tout. Mais après, Porzingis, son grand changement de profil, de maturité, il est là-dessus. Bah, deux matchs de play-off, le premier match il a assumé, le deuxième match il a pas assumé. On lui souhaite qu'il y en ait une vingtaine, hein.
Exactement, bien sûr. En tout cas, ça va être intéressant le match 3. Le match 3, ça sera à Miami. Mais toi, tu l'avais senti le coup un petit peu hier.
Un tout petit peu.
C'est ce que tu nous avais dit dans Clutch d'ailleurs.
Maintenant, le truc avec cette équipe du Heat là, ils sont capables de tous nous surprendre. Je te dis pas que je vais la jouer la cote, hein, parce que je pense pas qu'ils vont prendre le match 2.
Pas aller à 7 et quelques voilà. conduite.
Mais ils ont ce truc jusqu'à ce qu'ils soient éliminés, donc morts. Et ben ils sont capables de prendre un match. L'année dernière, de prendre un match face aux Nuggets en finale, c'était un authentique exploit. Donc écoute, pourquoi pas une zone match-up en 48 minutes, Tyler Herro qui fait un bon match en play-off, pourquoi pas. Voilà, ils sont capables.
Il serait pas un peu médium celui-là?
Ce que je dis hier, c'est que évidemment, j'allais pas mettre de l'argent parce que ça paraissait fou.
Dis-moi si je vais être heureux un jour dans ma vie.
Tu es déjà heureux dans ta vie, Erwan.
Ah bon? Merde alors.
Heureusement. Mais tu vois, on en a beaucoup parlé pendant toute la saison et on verra à la fin de la série ce qu'on dira. Mais t'as été très dur sur eux pendant la saison régulière avec cette équipe du Heat.
T'as été dur, Erwan. Ça leur a fait mal d'ailleurs. Tu les as touchés.
En tout cas, t'avais envie que, pas qu'ils s'effondrent, mais qu'ils se fassent sortir pour dire, bon, bah voilà, tu peux pas être une saison régulière moyenne et de faire des super playoffs, mais ils ont vraiment un truc à part dans cette franchise. Tu vois, c'est vraiment le constat que moi je fais des 5 dernières années. Il n'y a pas deux franchises comme eux qui sont capables justement d'appuyer sur le bouton. Ça, et ils l'ont prouvé hier soir.
Ça, on l'enlèvera pas. Il y a un coach qui est pour moi l'un des meilleurs coachs NBA qui tactiquement arrive, malgré l'absence de joueurs majeurs, Terry Rozier et Jimmy Butler. C'est une catastrophe, hein, pour eux qu'ils soient pas là. Ils arrivent quand même à être yeux dans les yeux maintenant. Série, c'est très long. Moi, encore une fois, je dis que Boston va passer, mais...
On est d'accord, ça.
Et puis,
il y avait paramètres du match 1 où ils sont quasiment inexistants sur le match 1. Il y avait une qualif en playing 48 heures avant. Ils étaient arrivés un peu cramoisis.
Ils viennent d'apprendre que Butler, c'est fini.
Ils viennent d'apprendre que Butler, c'est terminé. Donc, le match 1, il y a quand même beaucoup de circonstances qui étaient contre eux face à une équipe de Celtics qui était là, qui était reposée, qui les attendait au tournant. Voilà, là, ils ont dû refaire un petit peu de jus. Mais bon, moi, je continue à dire que sans Jimmy Butler et sans Terry Rozier, à un moment donné, tu vas être court sur patte. Hein. Je suis pas sûr que Tyler Herro, joueur fantastique, soit capable de faire 14 passes des comme ça. Je suis pas sûr que Jovic, qui est sur une progression comme ça, on l'avait vu déjà à Manille, il avait été plutôt intéressant. Je suis pas sûr que ces mecs-là soient capables de jouer à ce niveau-là pour gagner 4 matchs, en fait. C'est ça ma vraie interrogation.
De toute façon, personne tombera sur Miami s'ils sont éliminés par les Celtics. Non. Moi, ce que je dis de Miami surtout, c'est qu'avec cet ADN, cette manière de jouer, ce coach exceptionnel, ces joueurs que tu arrives à inventer, c'est quand même dommage que tu n'arrives pas à te construire des équipes où tu es un peu plus favori plutôt que d'être tout le temps underdog. C'était ça le point.
Oui,
on en parlera à la fin de cette série et on verra ce qu'il y en a. On va enchaîner avec les Knicks face aux Sixers. Les Knicks, j'ai noté deux choses pour attaquer cette série.
Dis-moi tout.
C'est énorme intensité.
Oui.
C'est une intensité énorme et énorme erreur d'arbitrage parce qu'on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Alors certes, ça profite aux Knicks sur le match 2 qui vont s'imposer 104-100. Alors un match qui était clairement promis aux Sixers. Et puis il y a Steph, je vais te lancer, c'est 7 fautes d'arbitrage.
C'est deux fautes
d'arbitrage coup sur coup.
3.
La faute, 3 même. La faute,
ouais, 3.
La faute 3. Sur Tyrese Maxey. Il lui tire le maillot.
Oui.
Le temps mort demandé par Gingers qui n'est pas accordé.
Et il y a une faute de Josh Hart aussi qui est pas sifflé.
Regarde, on va ce qu'a dit Joel Embiid. Cette défaite est pour la Ligue. C'est pour les foutus arbitres. Je déteste mettre le sort du match sur eux, mais je suis certain que le rapport des deux dernières minutes va tomber et que l'on verra ce qu'il s'est passé. Et il avait raison pour le coup, là, Joel Embiid. Le rapport est tombé et la Ligue a donné à déjuger les trois arbitres en gris.
Ça va pas leur donner une victoire.
Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un peu, c'est pas ce qu'on a envie de voir sur une fin de match playoff.
Non, c'est dommage parce que Maxey, qui est clairement, quand il tire le maillot, c'est pour ça qu'il est déséquilibré, qu'il n'arrive pas bien à attraper la remise
en jeu. C'est presque une faute intentionnelle, quoi.
Ouais. Normalement, en France, c'est antisportif de lancer possession.
Dans le sport, on tire pas les maillots, quoi.
Tu serres la main et tu vas vestiaire. Donc, oui, c'est malheureux que ça se termine comme ça. Maintenant, j'ai pas envie de tomber non plus sur les Knicks qui ont fait en termes d'abnégation, qui est fantastique, qui mettent un tir à 3 points, ils sont derrière, ils se battent sur la remise en jeu, ils plongent sur les ballons et DiVincenzo remet un tir à 3 points. Mais pour moi, c'est une série qui est loin d'être finie. c'est une série parce que là, ce qui s'est passé, je pense que les Sixers, ils ont bien la haine. Et que Jojo Embiid, même à 50, mec, tu le vois, il fait, je vais pas dire qu'il me fait mal au cœur, mais moi, j'aimerais bien voir la gueule de sa genouillère. Je pense qu'elle fait 3,5 kg, hein, sa genouillère. Il y a des armatures en fer partout. Mec, il est à 50 ou 60%. Et c'est pour ça que tu parlais de Porzingis qui fuit. Il fuit pas, mais il prend 9 tirs à 3 points. Et j'aime pas quand Joel Embiid prend 9 tirs à 3 points. C'est trop pour moi. Alors qu'il doit être dans la raquette à détruire tout le monde, parce qu'il n'y a pas un mec qui peut l'arrêter, même si Hartenstein est plutôt vaillant et qu'il était très bon d'ailleurs, il est bon sur cette série. Mais je sais pas, moi je vois bien, je vois match 7, hein. Il faut que Jalen Brunson s'enclenche un peu en termes de réussite, parce que les pourcentages sont cata sur les deux premières rencontres, mais t'as des soldats, Josh Hart prend 15 rebonds encore, je crois. T'as des mecs qui sont vaillants, t'as des mecs qui ont du cœur à New York.
McBride
qui est sur le match, qui met les 21 pions sur le match 1, c'est lui qui fait la diff. À voir si ça peut tenir, parce que là, en termes des soros, on parle, gros, Josh Hart 48.
De toute façon.
Il a, c'est heureusement qu'il
Precious
a
dit qui avait donné des bonnes minutes en saison régulière.
Tu vas sur
Hey, frérot, merci pour tout, va t'asseoir. D'accord. Il peut pas donner 10 minutes Precious Achiuwa pour mon rap. Mais j'aimerais qu'on revienne sur plusieurs choses. D'abord Embiid, évidemment, c'est ce qui nous intéresse le plus, Thomas. Steph dit il est à 50-60%. Moi, je suis assez d'accord avec ce pourcentage là. Alors j'ai vu un commentaire qui est très intéressant, qui me disait mais Erwan, Embiid peut pas trop aller à l'intérieur parce que son genou justement lui fait mal. Mais par contre, voir Embiid trop au large, c'est aussi ça qui peut les faire déjouer. Je vais rien enlever à l'arbitrage qui fait la bascule du match, parce que Tyrese Maxey est fantastique, mais Joel Embiid, il doit mettre Hartenstein et Mitchell Robinson beaucoup plus sur des foul troubles.
Ce que fait Zubac avec Tonton Gafford.
Non mais vous avez raison, c'est toujours dur de parler de mecs qui sont pas à 100%. Le problème c'est que c'est les playoffs et que Joel Embiid n'est jamais à 100% pendant les playoffs. Tu vois, moi c'est ça qui me frustre. Et oui, quand je prends le match 1, le match 2, quand je focus sur cette année, bien sûr je suis déçu, même pour les fans des Sixers, tu dis mais qu'est-ce que ça donnerait, il serait sûrement peut-être à 0-2, enfin 2-0 à 1 partout.
C'est quand même effrayant de voir ce qu'il fait quand même à 60%.
Voilà, exactement, il est dominant, il n'y a pas de doute là-dessus, mais le problème c'est qu'il perd des matchs.
Bien compris.
C'est quand même effrayant de voir ce qu'il fait en n'étant pas à 100% de ses moyens.
Joel Embiid est un bon joueur, merci pour l'info, n'hésite pas à intervenir.
Mais la frustration elle est terrible, parce qu'il est jamais, il est terrible. Il a jamais fait de playoff à 100%, tu vois, c'est ça que je vois. Donc oui, on peut en parler autant qu'on veut. À l'heure actuelle, ils sont menés 2-0 et que genou à 60% ou à 100%, le constat c'est qu'il y a une série à jouer.
Autre clé du match, la défense de Nick Nurse, les choix défensifs de Nick Nurse sur Jalen Brunson. Tu dis que Jalen Brunson, il a des petits pourcentages. Oui, mais parce que défensivement, il a fait le choix de mettre Kelly Oubre et Nico Batum, qui sont des joueurs plus grands que lui, qui en vitesse le suivent, et par leur envergure, il l'oblige à forcer. Et c'est vrai qu'il a, alors il a été plutôt bon dans la passe pour les trouver sur des petites
surtout
passes.
Surtout sur le match 1, dans le coup de chaud à la fin, là.
Avec Hartenstein, mais pour l'instant, le plan anti-Brunson marche plutôt bien côté Sixers.
Ouais, il marche bien. Et je pense que Nick Nurse doit avoir les boules de se dire, on est mené 2-0, alors que Jalen Brunson a plutôt été contenu jusque-là avec des, enfin, il fait 8-24, je crois, sur le match 2. Sur le match 1, il est encore pire, je crois, en termes d'adresse. 29, non, ou un truc comme ça, non. Et, c'est bien. On sait que Nico est capable de défendre du poste 1, poste 5. On l'a vu cette année. Après, il y a des mecs qui, je pense que Nick Nurse, que McBride lui plante 21 points en match 1, gros, c'est pas prévu sur Scouting Report. Bon, je suis pas sûr que t'as prévu que McBride te mette 21 pions, même si c'est un mec qui a des qualités, capable de mettre des.
Mais 21 dans un match où DiVincenzo est pas très bon aussi,
oui,
il prend un peu sa
oui,
place.
Oui, oui, oui. Après, sur le match 1, Josh Hart qui met 2 tirs à 3 points de l'espace aussi.
Pour moi, la bascule, elle est surtout là. C'est l'adresse extérieure de Josh Hart. Les deux bascules, c'est ça, c'est Josh Hart qui met dedans. Il y a des pourcentages, on sait qu'il est capable de mettre, il avait mis 40 une fois avec les Blazers, il est capable de mettre, mais de mettre aussi régulièrement sur des matchs de playoff comme ça, avec une intensité et des enjeux,
il est magnifique,
elle est incroyable.
Pour revenir sur Jalen Brunson, je trouve que c'est clairement une excellente nouvelle pour les Knicks. C'est une excellente
d'être
nouvelle
d'être à 2-0
alors que le gars passe à côté. Je remets quand même en perspective un truc, c'est que oui, il a des pourcentages cata. Et dans le basket aujourd'hui, si t'es pas à 50%, t'es un vieux joueur. Mais il y a tellement d'autres aspects.
Général.
Où tu peux être ultra dominant dans un match de basket sans être forcément à des très hauts pourcentages. C'est le général de son équipe, c'est le seul créateur de son équipe. À chaque fois qu'il y a un décalage, c'est parce que la défense est archi focus sur lui. C'est pour ça que Josh Hart, que DiVincenzo, que Deuce McBride arrivent, ou Hartenstein arrive à performer, parce qu'ils ont des grands tirs ouverts. Alors, c'est du très haut niveau, bien sûr. Mais c'est parce qu'ils sont tous en train de le regarder. Il a que des 1 contre 1 difficiles. Il tente des trucs. Franchement, il les a mis toute la saison. À voir s'il arrive à, ouais, à switcher, à mettre ses tirs à lui en playoff. Mais... je suis pas sûr qu'il, soit une, qu'il le fasse, mais en tout cas, il aussi... arrive à avoir un énorme impact.
Mais c'est aussi un test pour savoir si Jalen Brunson est un énorme joueur NBA. C'est sur les playoffs que tu vois. Tu me parles des défenses en playoff. Je crois qu'il y a eu 14 scores en dessous des 100 points. Donc là, tu t'aperçois que c'est quand même un autre basket que quand c'est saison régulière. Mais tu t'aperçois que les superstars, playoff ou pas playoff, elles font. Lucas, il a plus de 30 points de moyenne. Joel Embiid, il a plus de 30 points de moyenne. Jalen Brunson, il est en deçà de ses standards par rapport à la saison régulière. C'est là aussi où tu vois si le mec est capable. Alors, il a été très bon à Dallas en playoff où il a fait des cartons, mais c'était dans un contexte différent où c'était pas le go-to guy de l'équipe.
Il n'y avait pas
si
Lucas,
Lucas était bloqué. Ouais, ouais. Moi, j'ai envie de voir Jalen Brunson, même si je suis d'accord avec toi, il centralise beaucoup de choses et ça permet aux autres d'être. À un moment donné, tonton, il y a un moment donné, tonton,
vous avez tout, vous avez tous les deux raisons. Il faut prendre de tout. C'est que moi, j'aime l'attitude où il reste général. Oui. C'est le patron. Oui. On va mettre la balle là. Venez trapper. Je vais vous mettre là. Vous allez briller, vous. Ça, parfait. Mais on est en NBA. Et qu'à un moment donné, si les Knicks veulent aller un peu plus loin et qu'ils veulent rêver de finale de conférence, il va falloir que Jalen Brunson se rapproche de ses standards de saison régulière.
Vous avez une crainte sur le fait qu'il se réveille? Moi, j'ai peu de crainte. J'ai du mal à croire qu'il
le mot réveillé, c'est le mot réveillé. Ouais, pour moi, ça serait réveillé, vraiment mais... genre, il est pas
qu'il fasse un match à 40 comme il a
Non.
J'ai pas de crainte.
Pense que c'est un
C'est pas là-dessus que ça va jouer.
Moi, c'est un pur scoreur de fou et que forcément, à un moment donné, ça va retomber dedans.
Mais la vraie différence, tu l'as dit, c'est le supporting cast des superstars, en fait. C'est que New York, on a cité les noms. Aux Sixers.
Tobias Harris.
Tobias Harris, Kelly Oubre, qui est normalement un meilleur joueur que ça offensivement, Kelly Oubre. Je dis pas que
Kelly Oubre, il a vraiment le profil du parfait. Encore défensivement, ça va. Mais il a Kelly Oubre, le parfait profil du mec qui est en playoff
qui
peut
disparaît.
Pas exister.
Pourtant, il fait une saison. Mais c'est très solide, hein. Très solide,
la saison. Le basket augmente trop.
Arrête les blaires, Amoud, arrête les trucs, là. Joueur à sauce, là, j'en peux plus, quoi.
Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2-0. Tyrese Maxey a fait gagner son équipe.
On va y aller.
Tyrese Maxey a clairement fait gagner son équipe et il part avec une défaite. Ça doit être quand même
Tyrese Maxey qui vient d'être donc élu MIP cette semaine. Lui, il fait en play-in. Je l'avais trouvé un peu décevant face à Miami, c'était passé. Là, les deux matchs qu'il fait face aux Knicks, c'est lui le meilleur joueur des Sixers hein, sur ce début de série. Clairement, il est extraordinaire. Déjà dans le match 1, mais dans le match 2, ben oui, il est censé faire gagner son équipe.
Ouais, c'est la première option de son équipe, t'as raison.
Il est magnifique.
Dans les intentions, l'équipe lui ressemble. Alors bien sûr, il y a Joel Embiid qui a des ballons, encore heureux, mais c'est lui qui prend toutes les décisions de fin de match. À l'image de CJ McCollum aux Pelicans, à l'image de Jalen Brunson, tu vois, à l'image de LeBron avec les Lakers, il y a un mec comme ça qui sort de la mêlée, tu gagnes, tu perds, mais en tout cas, Shea, bien sûr, avec OKC. Donc, moi, il me surprend, il me fait kiffer, son trophée est clairement mérité. Il est en train de devenir une star, ce mec-là. Et c'est aussi en playoff qu'on voit qui est qui. Donc, pour l'instant, sur deux matchs. Bravo. Encore une fois, faut gagner des matchs maintenant.
Oui, alors faut gagner. Si tu perds au premier tour, ça aura quand même moins de saveur, même si sa saison est exceptionnelle. Après, on se rappelle que au début de saison, avec la saison commence, tout le regard est braqué sur lui. Harden est parti. Est-ce que t'as les épaules pour faire un one-two punch avec Joel Embiid?
Oui, monsieur. De le faire. J'ai les épaules.
J'ai les épaules. Bravo. Bravo.
Et par rapport au trou de fait de MIP, un petit truc que je veux dire, c'est que, alors vous avez vu Kobe White est deuxième.
Tu veux faire l'édito? Tu veux faire l'édito? Un coup de gueule?
Non, pas un coup de gueule, mais on a vu sur les 10 dernières années, voilà, Ja Morant, Paul George, on a vu. Bah là, on regarde les votes hein, pour le trophée du MIP de cette année. Kobe White est donc deuxième, troisième pour Shengun, Jalen Williams et Jalen Brunson en cinquième position. Franchement, pour moi, le MIP, et on en parle souvent ensemble, c'est un gars qui sort de nulle part et qui explose. C'est vraiment ça que j'ai en tête, c'est comme ça qu'on a grandi. Là, depuis 10 ans, on récompense des mecs qui étaient des vrais bons joueurs, Maxi était à 20 points l'année dernière, et qui deviennent des stars. Je trouve que c'est on devrait limite créer un nouveau trophée.
Tu voulais mettre qui cette année?
J'aimais bien Kobe White. J'aimais bien Kobe White.
Kobe White, il a fait les saisons à 15 pions avant. L'année dernière, il est honteux, mais avant, il joue au basket quand même.
Clairement, t'as raison. Mais on voit la progression d'une saison à l'autre. Sinon, c'est ça le MIP.
Tu dis, Maxi est en train de devenir une superstar. Est-ce que Kobe White n'est pas en train de devenir une superstar? Il n'est pas dans le même contexte?
Bah non, lui il est All-Star, il me fait penser à Ja Morant, il me fait penser à Paul George. Non, mais et quand il gagne le MIP, c'est l'année où il devient All-Star, tu vois. Là, Kobe White, il est pas du tout All-Star, c'est un bon joueur pour l'instant. Donc moi j'aurais bien aimé qu'il y ait un nouveau trophée, hein, un espèce de truc Rising Star ou je sais pas, un truc du mec qui casse un plafond, ça devient une star. Et le MIP reste le mec qui passe de 10 minutes de jeu à 25
qui tape, tu vois. On a toujours connu le MIP comme ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu changé, il y a beaucoup de
La prochaine ça sera Victor qui aura le MIP.
Non.
Il faut y a 35 points pour match. Non mais pourquoi
pas
toi?
S'il passe de 20 à 28.
Ah, il a raison, en gros, c'est ça. Jean Morin, il avait eu, on n'avait pas compris. Concept, hein.
Mais dans ce cas-là, il a raison. Faut,
c'est ce que je te dis, il faudra un autre trophée.
Un nouveau trophée.
Ouais, Rising Star.
Moi, j'aimais bien l'idée du MIP, du mec qui, comme Boris Diaw, tu vois, qui arrive qui sort d'Atlanta, qui jouait pas.
C'est ce qu'il va t'expliquer, en fait.
Oui, c'est ça. Mais je le rejoins.
Du 9e homme au 3e équipe, joueur de son équipe.
Bon, allez, on va enchaîner avec une autre série qui est aussi passionnante. Et là aussi, il y a 2-0. Mais il n'y a pas de problème d'arbitrage. En tout cas, pas que je sache. Il y a surtout un problème qui s'appelle Anthony Edwards pour les Suns. Les Wolves qui mènent 2-0, donc, et Minnesota clairement, clairement, qui domine les Suns. Et on va d'abord aller sur Minnesota. Je voulais donner beaucoup de crédit, moi, à la saison des Jean-Marc Crédit, qu'on embrasse. Je voulais donner beaucoup de crédit à Minnesota pour leur saison régulière. Mais en playoff, c'est vrai que c'est là qu'on les attendait et je voulais y croire et je suis pas mécontent d'y croire, Tom.
Pour l'instant, on est sûr, on y croit, on n'est pas sûr.
Ah non, moi j'y crois à fond. Je trouve que cette équipe-là, elle est emmenée déjà par un joueur extraordinaire qui va devenir un très très grand. Et puis derrière, il y a un coach, il y a un casting qui vient. Il y a tout qui va bien dans cette équipe.
Ouais, moi je vais pas faire le pisse froid, mais je vais d'abord leur donner du crédit. T'as deux matchs à domicile contre les Suns. On l'a dit, ils ont perdu tous leurs matchs de saison régulière contre eux. C'est le pire match-up, que des ailiers, beaucoup de talent, blablabla. Ils leur ont cassé la gueule sur les deux matchs avec deux physionomies différentes. Le premier, c'est Anthony Edwards qui est exceptionnel, où tu t'es largement dominant au rebond avec cette super séquence là, on aime, voilà, le passage de témoin, on adore ce genre de truc. Le deuxième, c'est différent. Le deuxième, c'est le rouleau compresseur avec un de tes second couteaux qui crève l'écran, c'est Jaden McDaniels. Donc tu vois, c'est deux matchs différents mais avec exactement les mêmes symptômes. Il y a une équipe qui est plus forte que l'autre, encore faut-il maintenant faire la même chose à l'extérieur. C'est pour ça que il y a deux matchs de play-off, on a déjà vu des équipes mener 2-0 depuis qu'on fait des trucs ensemble et puis finalement perdre les quatre derrière. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis que pour l'instant, bravo à eux, crédit à vous, mais le plus dur commence en allant à Phoenix.
Moi, ce qui est fort sur ces deux premières rencontres, c'est que tu tiens une équipe qui peut éventuellement te mettre 130 pions sur un match avec Durant, Bill et Devin Booker, deux fois en dessous de la barre des 100 points. Pour moi, je trouve que c'est une performance exceptionnelle, sachant que si tu fais le mathématicien, tu peux dire KD 30, Booker 30 et Bill 15, ça fait déjà 75 points à trois joueurs. ils n'existent pas. Ils détruisent, alors le jeu offensif de Phoenix est d'une pauvreté absolue, mais ils détruisent tout. Ils perdent 19 ballons encore les Suns, ils sont en travers complet, mais parce que Minnesota est une équipe exceptionnelle défensivement. Après, Frank Vogel...
C'est un touriste.
Ah bon.
Pour l'instant, on dit qu'il est champion. Hein.
Alors moi je veux bien, alors, je suis d'accord. C'est dur de tomber sur un coach où il y a une équipe où il y a KD, où il y a Booker, où il y a Bradley Beal, où t'as tendance à te dire, ces mecs-là sont trop forts, je veux pas non plus proposer. Mais frère, propose quelque chose. Oh, en attaque, sur le match 1.
C'est un scrimmage.
C'est dramatique.
C'est un scrimmage.
C'est dramatique. Il se passe rien. Tandis que Minnesota, il y a du talent. Anthony Edwards, c'est fantastique. Alors, il y a cette ADN défensif. Mais en attaque, il y a des choses. Il propose des trucs quand même. Il y a le ballon, il bouge. Phoenix, les mecs, ils gèlent le ballon pendant 10 secondes, 15 secondes.
Tu m'expliques là, laquelle des deux équipes a un mélange de jeu sur le terrain? C'est clairement pas Phoenix.
Oui, hein. Et quand tu fais face à une équipe qui est la meilleure défense de la ligue, il faut la faire travailler, gros. Tu peux pas battre une équipe qui défend comme ça en faisant une passe, un tir. Il faut faire bouger, il faut provoquer des rotations pour avoir des décalages. Les mecs, ils veulent marquer au bout de 5 secondes. T'es mort. Ça n'existe pas, gros.
Qu'est-ce qu'on fait, du coup, chez les Suns?
On rend les clés, gros. Hop, merci, au revoir, l'année prochaine.
De toute façon, cette équipe, elle est mal construite, qu'on le veuille ou non, de faire venir. Moi, j'ai un. Alors, Devin Booker est vraiment pas bon. Oui. Vraiment pas bon.
Ouais.
On va le voir là, c'est assez surprenant. Mais moi, le rôle de Bradley Beal, qui est le Suns qui a pris le plus de tirs sur le match 2. Alors plus de tirs, là, il en a pris 17 ou un.
Ouais, ils sont tous pareils, hein. Voilà. Oui, oui.
Moi, je comprends pas le but, le projet autour de Bradley Beal chez ces Phoenix Suns. Alors il a longtemps été blessé dans la saison régulière, il est revenu petit à petit.
Il a bien fini la saison.
Il a correctement fini la saison. Quel est le rôle de ce garçon?
Il a pas de rôle, hein. On lui demande d'être lui-même, mais sans que tu puisses être toi-même. C'est un gars qui a tourné à 32 points par match sur une saison NBA. C'est un ultra shooter, score, etc. Mais il a jamais
capable d'être un défenseur élite.
Ouais, bon, ça fait 8 ans. Les mecs qui ont pas défendu depuis 5 ans, j'ai toujours du mal à me dire que tout d'un coup, hop, ils vont switcher. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais il y a personne qui joue comme il est censé jouer. Il y a que KD qui fait son truc parce que c'est un joueur hors norme, mais qui ne peut plus porter une équipe, donc il va faire ses trucs, il va mettre ses points, il va jouer des contre-un.
Que des tirs par lui-même, hein, KD.
Que des tirs par lui-même, d'ailleurs, pour chacun des mecs. Devin Booker, on lui demande, il faut que tu sois à la fois contrôleur de gestion de tempo, scoreur, passeur. Mais gros, c'est pas ça, Devin Booker, c'est un scoreur. Tu lui mets Chris Paul à côté, tu fais, maintenant tu vas marquer des points, tu vas mettre 40 dans la série, et on va se faire kiffer. Mais là, la structure d'équipe est pas bonne, ils défendent pas, il n'y a pas de mouvement.
En sortie de banc, ils envoient Eric Gordon qui fait exactement la même chose que les autres, c'est-à-dire il est là pour mettre des pantons. Il y a pas de hiérarchie, il y a pas de role player, il y a pas de. Alors, ils sont tous là pour mettre des pâtons. Alors, tonton Nurkic, il est là à l'intérieur. Bon, bah, il prend
4 rebonds pour le match. Il prend 14 au deuxième, donc il est un peu plus dans la lutte.
Très triste.
C'est pour ça que Thomas, moi je dis il y a 2-0, et je trouve. Et en plus, les deux défaites pour moi, elles sont. C'est deux manières différentes. C'est Anthony Edwards, c'est extraordinaire. Et ensuite, c'est le collectif fantastique avec, avec un mec qu'on n'attend pas qui met 25 points. Par contre, les deux constantes de ce match-là, c'est qu'ils se font détruire à l'intérieur.
Mais oui, c'est ce que j'ai dit.
Et c'est que sur, sur la dureté. Donc, je vois pas parce qu'ils vont à la Phoenix, alors il va faire peut-être
si,
plus chaud.
Si. Je pense que le fait d'aller à Phoenix, non, mais pas à cause qu'il fait chaud, arrête. Bon, on voit les salaires de Rudy Gobert. Je t'aime.
Par moi, il est pressé, Cyravino en régie, hein, pour m'envoyer des
tapes.
J'allais y arriver à Rudy Gobert.
Bon, Rudy est magnifique et c'est peut-être l'image de ces matchs, c'est qu'il est ultra dominant et qu'ils n'ont pas de réponse à la taille et aux capacités défensives de Rudy Gobert, sans aucun doute.
Oui, moi, j'ai juste il a fait le way.
Il a mis un fadeaway avec la faute et il a fait un coast to coast au match 2. Il est chaud.
Ce qui est intéressant avec Rudy, c'est qu'on se souvient avec Utah, en playoff, son rôle diminué, son temps de jeu diminué. Là, il n'y a rien. Ce qu'il fait en saison régulière, il le fait en playoff. Et ça, c'est une première pour Rudy Gobert.
Sur les deux premiers matchs.
Mais
on va
parler des autres matchs qui ne sont pas joués. C'est je sais pas pourquoi. On est là, on argumente sur Phoenix.
Ah, il en brille.
Ouais, il est pas content.
On est passionné.
Parce que Erwan, il pense que les Wolves vont être champions, visiblement, mais sur deux matchs de playoff.
N'importe quoi, mais t'es en train d'essayer de me dire que Phoenix, attends, la série n'a pas vraiment commencé parce que Phoenix.
Non, j'ai pas dit ça.
Mais gros, ils se sont fait détruire. Qu'est-ce qui va se passer à Phoenix?
Alors, j'aimerais qu'on fasse, on mette un replay de ma première phrase. J'ai beaucoup de crédit à une équipe qui a joué à domicile. Attends, qui, encore une fois, je vais pas répéter ce que tu viens de répéter de ce que j'avais déjà dit. Je te dis juste que les séries changent quand elles changent de ville. Ça fait 20 ans qu'on regarde. Hop, je t'ai eu là.
Ouais, bravo.
Joli. Meneur du jeu, hop. Ça fait 20 ans qu'on voit ça. Quand tu changes de ville, tu changes d'énergie. Tu vas à l'extérieur, c'est pas le même basket. Je pense que Phoenix a le droit de bien mieux jouer au basket. Ils sont capables de faire de bien meilleurs matchs. Si vous me dites que c'est.
Ils sont capables de mieux jouer au basket, mais ils sont capables de faire de meilleurs matchs. Voilà, Booker et Durant et Bill sont capables de mettre plus de points.
Les seuls sont capables de faire des bien meilleurs matchs de basket, quelle que soit la manière. Ils ont le droit d'être meilleurs défensivement. Ils ont le droit d'être.
D'accord.
Ils ont le droit d'être meilleurs.
Et tu penses, parce que c'était. Tu penses que s'ils font ça, du coup, ça va changer la gestion de Rudy, notamment?
Mais bien sûr que oui, bien sûr. S'il y a une meilleure énergie, si tu cours plus, si t'es plus adroit, si les ingrédients que tu mets à la base sont juste meilleurs, bah forcément, tu causes des problèmes différents à cette équipe qui, pour l'instant, est totalement souveraine. Donc là, si on va dans votre sens, enfin, en tout cas dans le tien, il y a 4-0, il n'y a rien à dire. On est plutôt dans ce sens-là plutôt qu'une série qui pourrait durer. Je pense que tu te trompes.
Mais Erwan, t'es quand même conscient que c'est pas pareil de jouer à l'extérieur. À domicile, t'as ce surplus de motivation. Tu me filoches, t'es chez toi, forcément que Phoenix va être meilleur. Ils vont forcément être meilleurs en jouant à domicile. Maintenant, être meilleur, est-ce que ça veut dire automatiquement battre cette équipe de Minnesota?
C'est un autre débat.
Je suis pas sûr.
Tout à fait.
Je suis pas sûr parce que tu me dis, ils vont défendre mieux. Ils prennent pas beaucoup de points non plus.
Ça c'est vrai.
Phoenix, hein, ça va pas sur les 115 ou sur les 120 points.
Voilà.
Mais le problème, c'est que je vois pas comment ils peuvent battre cette équipe. Je vois pas comment à l'intérieur, que ce soit Rudy, que ce soit Nasrid et tout ça, je vois pas comment.
Ils ont réussi à le faire 3 ou 4 fois pendant la saison régulière. Je veux dire, ça n'existe.
Je te dis pas qu'ils vont se faire sweeper. Je te dis que moi, quand je vois sur les deux premiers matchs, c'est à domicile, t'as l'avantage du terrain, très bien. Mais en tout cas, je vois que la philosophie de jouer grand, la philosophie d'appui là où ton projet, ce que t'as pensé il y a 2 ans en faisant venir Rudy Gobert associé à Karl Anthony Towns, ben en fait t'as été en playoff et il y a rien qui change. C'était un peu le cas avec Utah par moment. Je trouve que Utah il le faisait dès le début. Mais
je dis juste que là pour moi t'as des certitudes sur deux premiers matchs réussis. Le truc des playoffs c'est que c'est long et que une série de playoffs c'est long. C'est ce que j'essaie de dire. Après, deux magnifiques matchs, tu les vois très très beaux. Il y a pas de souci avec ça.
Leur truc, c'est que autant à Utah, c'était pas la philosophie de jouer grand. Ils avaient Rudy, mais c'était pas une philosophie.
Moi, je parle pas d'Utah, je parle de Minnesota.
Là, Minnesota, leur philosophie, c'est aussi de jouer grand. Et on s'est dit, souviens-toi, au tout début, on s'est dit, ah, mais on va voir en playoff s'ils sont capables de jouer grand.
Mais moi, je sais pas pourquoi tu parles d'Utah. Je parle vraiment de cette équipe qui a rien à voir avec celle d'Utah à l'époque, franchement.
Non, mais lui, te parle du rôle de Rudy avec Utah baissé parce que Donovan Mitchell aussi se goinfrait un peu plus en playoff.
Ils ont été souverains dans leur plan de jeu. Quand t'es souverain, tu vas au bout de ton plan de jeu. Quand tu commences à être un petit peu déséquilibré parce que l'équipe d'en face propose un truc, c'est là qu'on voit quels seront tes choix. C'est simplement ce que je dis. Après deux matchs d'une série au premier tour.
Après, Phoenix à domicile réglera pas son problème de playmaking, en fait, d'organisation.
Pour l'instant, on l'a pas vu. On peut pas y croire.
Oui, mais enfin, je sais pas. J'ai envie de dire, tu mets Mike Conley à Phoenix, gros, je suis sûr qu'ils sont meilleurs, les Suns.
À la place de Bradley Beal.
Je pense qu'ils sont meilleurs.
Bien sûr. De toute façon, on l'a dit, redit, il leur manque clairement un meneur. Un petit mot quand même sur Nasrid. On en a parlé, meilleur sixième de l'année. Ouais. Un peu dur pour Malik Monk. Je sais que Thomas, ce matin, tu dis un peu dur pour Malik, mais Nasrid fait une très très belle saison et peut-être que le bilan collectif a fait la bascule.
Je sais pas, c'est une bonne question. En fait, moi, ce qui m'a un peu embêté, là, quand j'ai vu le truc ce matin, c'est que j'ai vu toutes les réactions. Tout le monde a pensé à Malik Monk, qui était le favori du dernier run de playoff. Mmh. Vous avez vu, bah voilà, merci Tom. Regardez comme c'était serré, c'est incroyable. 45-43 première place, 39 première, deuxième place ou 38, je sais plus, c'est un peu loin. Bref, c'était très, très, très serré. Donc, oui, je pense que Malik Monk, pour 10 points d'écart, il doit bien avoir la haine. Mais Nasrid mérite pas que sur cette saison. Tu vois, on peut aussi dire ça, c'est que ça fait 2-3 ans qu'il est en train de se révéler, que c'est un titulaire de NBA en puissance, mais qu'il est dans ce projet-là, sixième homme, bravo à lui, il a été bon toute la saison, c'est un joueur un peu hors norme. Oui. Franchement, bravo, tu vois, les mecs de 2m10 qui font des dribbles comme ça, bravo.
Ballon qui lui brûle les doigts, hein. Souvent, dès qu'il a touché, pas qu'il envoie, hein. il tire vite.
C'est capable de mettre dedans régulièrement.
Parfois, bon, un peu à l'excès aussi.
Bon dans le handle.
Il a un de très haut niveau.
C'est un drôle de joueur, c'est un joli joueur. Tu sais, quand il va finir comme ça, la contre Phoenix, après, peut-être qu'il le fera pas à Phoenix parce que c'est à Minnesota.
C'est trop chaud, peut-être. J'espère qu'il sera pas neuf.
J'espère qu'il y aura pas 2-2, hein, parce que toutes tes certitudes à 2-2.
J'adore, mais c'est pour ça qu'on est là! C'est pour que tu me mettes dans la gueule s'il y a 2-2. Par contre, s'il n'y a pas 2-2, il y a moins que la prochaine force des choses, ça soit une bagarre.
Bifle, bifle!
Oui, s'il y a 3 pour Minnesota en jouant grand, et ben je dirais bravo. Voilà.
Bravo. Mais on est là pour ça, pour débat, j'allais dire, c'est trippé, on s'est trippé même pas. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Il reste une petite série, on va le faire rapidement parce que le Thunder, hier, a étrié les Pelicans. Victoire de 30 points, il mène 2-0. La théorie, là, pour le coup, au plus cette jeune équipe d'Okissi va jouer des matchs de playoff, au plus ils vont être mauvais à prendre. Le premier, ils se sont fait un peu peur. Le deuxième, ils ont rosté les Pelicans.
Ils ont fait respecter leur rang. Il n'y a pas Zion, on le sait. Ils ont galéré sur le premier match. Les Pels avaient tout pour prendre ce match et réinverser la tendance. Ils ne l'ont pas fait. Malheureusement, ils étaient un peu courts sur la fin. Hier, ça a été une démonstration. Crédit immense à Chetel Graham, qui est dans un duel avec Valanciunas, de style et de poids surtout. Hein. Valanciunas, il met les 11 premiers points de son équipe. Ouais. Et Holmgren, il a 20 points rapidement. Franchement, c'était un très bon match de basket, dominé par le collectif. Surtout du Thunder.
Sans Zion, les Pels ont besoin que Brandon Ingram soit meilleur. Qu'il fasse des énormes matchs. Hein.
Il lui envoie une sécurité.
Je suis d'accord avec toi.
La chasserie, c'est Steven Seagal qui se relaie. Hein.
CJ McCollum n'est pas énorme non plus. Donc là, je ne vois pas ce que tu peux espérer. Après, méfie-toi à New Orleans. Il y a de la musique et tout ça. Ça peut changer. Ça peut changer.
C'est vrai, 2-0. C'est ce que nous disait Moria Mills, d'ailleurs. Allez, on va tout de suite sur le débat parce qu'on va aller sur la série aussi qui nous passionne, c'est les Mavs face aux Clips. Et oui, déjà 40 minutes d'émission, c'est ce qu'on nous dit, mais c'est les playoffs, on est là, on débat, on a des choses à dire, on a plein de choses à dire aussi sur les Mavs et les Clippers, un partout. On a vu un match 1 largement dominé par les Clippers privés de Kawhi, on a vu un match 2 à l'ancienne, avec un match où deux équipes sont sous les 100 points, on a vu un match défensivement assez bluffant, on a vu un Luka plier le game aussi, et on a surtout vu les Mavs revenir à un partout. La série maintenant va aller à Dallas. Thomas, c'est une série pour l'instant qui tient un peu toutes ses promesses.
Ouais, absolument. Le fait que Dallas gagne ce match 2 et donc que ça promette tout de suite une série longue, c'était la série la plus serrée, 4-5 bien sûr. C'était la série aussi où il y avait c'était le plus difficile de faire un prono. On était tous plutôt Mavs ici.
Oui. J'ai pas eu de mal à faire un prono, je te le dis tout de suite.
Moi aussi j'ai dit 6 Mavs. En tout cas, le match 2 va dans ce sens-là. Mais surtout, on voit beaucoup de basket. Il y a beaucoup de talent sur le terrain et c'est d'autant plus étonnant de voir autant de MVP, futurs MVP anciens, All-Star machin, et de voir deux matchs à moins de 100 points. Parce que c'est âpre et parce que le niveau des deux équipes est très très similaire. Donc oui, il y a eu un gros match à l'extérieur qui était une réaction à l'orgueil d'une non-performance sur le match 1 de la part de Dallas. Donc c'est difficile de voir dans quelle direction va aller le match 3.
Ça a été les montagnes russes un petit peu pour toi, Steph, ces deux premiers matchs, un match 1 minable, vraiment, ou dans l'attitude, ils n'y ont pas été.
Je ne vais pas faire que ce soit l'inverse, parce que le match 1 était un horaire décent.
21h30, dit le samedi.
Et le match 2, un vrai match de réaction, mais pas que. Est-ce que tu as été bluffé aussi défensivement parce qu'on fait Dallas sur le match 2?
Oui. Mais moi, je suis persuadé que. Alors, j'ai vu énormément de matchs de Dallas. Dallas, c'est pas bon. Sur le match 2, ils gagnent. Ils ne font pas un match exceptionnel. Pourcentage au lancer franc catastrophique. Je crois qu'ils font 16-27 au lancer franc. C'est une équipe qui n'est pas au max. Alors, vous allez me dire, les défenses peut-être sont montées d'un cran. Oui. Ils peuvent faire mieux.
Pour lancer franc, les défenses.
Oui, il n'y a pas de défense. Non, mais je te parle sur plus globalement. Cette équipe de Dallas, elle est capable de faire mieux. Donc, j'ai envie de me dire que ça me rassure un petit peu de ce que j'ai vu sur ce match 2. Après, ils ont tellement été dramatiques sur le match 1. Par rapport à la différence match 1, match 2, c'est l'implication de Lucas sur le début du match. Sur le match 1, il prend deux tirs tout de suite. Tu sens qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas bien impliqué. Les passes n'arrivent pas au bon timing. Dans le match 2, il n'est pas tout de suite dans le scoring sur le premier quart, mais il y a l'implication des passes. Lively arrive vite pour Dennis Gafford. Il sert Derek Lively. Il implique tout le monde. Après, il y a une stat où Lucas dit qu'il a défendu Fantasme. Enfin, c'était exceptionnel.
C'est pas ce que j'ai vu, moi.
Je m'en cague un peu de cette stat. Pour moi, elle veut rien dire. C'est plus un concours de circonstances. Ouais, les mecs ont pas. Par contre, dans l'attitude, dans l'envie, dans la grinta, Lucas m'a régalé sur le match.
Bien, voilà la stat qui veut, selon toi, pas dire grand chose. Bon, ça reste quand même un bon zéro pointé, mais oui, on est.
Parce que comme on critique souvent la défense de Lucas, on l'a vu sortir tous sur les réseaux. Cette stat, elle est intéressante.
Il y a un truc intéressant sur ces deux matchs. Il y a une tendance, c'est que Lively joue beaucoup plus que Gafford.
À cause de quoi? Gafford, il fait que des fautes. Il rentre, il a deux fautes au bout d'une minute 30. C'est lui qui est censé avoir un petit peu plus d'expérience. Bon, bah, bon, dans playoff, hein, ils sont cutis tous les deux. Mais
après, Gafford et même PJ Washington sont deux mecs qui étaient dans les bas-fonds de la NBA avec Washington et avec Charlotte. C'est aussi une dimension différente pour eux de jouer des matchs de playoff avec des responsabilités de ouf. Ty Lue, il a bien compris que Dennis Gafford, c'est un peu. Je vais pas dire la
Daniel, coup, Daniel, pourquoi tu dis Dennis?
Ah, pourquoi j'ai Dennis Gafford? Daniel Gafford, c'est un peu. Pas le joueur clé, mais c'est le mec qui va poser les piques à Lucas, qui va libérer pour les high-low, pour les alley-oop sur la dissuasion. Gros, Zubac, prise de position. Pour match 1, on gaffe Zubac de ballon, faute, terminé. Match 2, pareil. Sauf que là, Derek Lively a été bon.
Elle aussi, c'est bien ça, que tu parles
des... aussi, c'est un gamin.
J'aime bien le fait que tu parles des post-ups, parce que de manière générale, on n'arrête pas de dire que dans ces playoffs, le basket a changé, l'arbitrage, les défenses. Il y a un autre truc qui a changé, c'est qu'on revoit des 1 contre 1 post-bas.
Oui. Et Zubac. Et des flashs de pique comme ça, servis.
Ah, tu vois, des trucs du basket qu'on connaît, alors que dans la saison régulière, ça tire, ça court et machin, c'est le cirque. Qu'est-ce que ça me fait kiffer de voir des 1 contre 1 jouer, des hooks, des trucs. On a vu Jokic, on a vu Valanciunas. Là, t'as raison, Zubac. Il a énormément d'expérience par rapport aux autres, ça se voit. Il est plus grand aussi, ça se voit. Ils auront peut-être ça en plus, enfin continuer à jouer sur cet aspect-là pour aller chercher cette série.
Avant qu'on aille sur les Clippers, un petit mot sur Kyrie Irving qui fait un bon match 1, qui est un peu plus discret sur le match 2, mais qui fait le taf, mais qui a mis surtout une énorme soufflante à un temps mort lors du match 1. Là aussi, l'expérience de Kyrie, c'est ça, c'est de peut-être secouer le cocotier quand il faut.
Oui, le leadership, il connaît ce genre de rencontre, il connaît les playoffs, il a été champion NBA, il a une bagouze. Moi, j'aime bien ce que je vois de Kyrie. Alors, sur le match 2, sur la première mi-temps, il fait une très petite première mi-temps. Hein. Le premier carton, je crois qu'il est à 0 points, premier quart, il met pas un panier. Mais il va pas croquer, en fait. Il attend aussi un peu que le jeu vienne à lui, que la défense le laisse un petit peu plus libre. Mais dans l'attitude, il est irréprochable. Et puis, ce qu'on voit, il y a une vraie connexion. Rappelez-vous, quand Kyrie débarque à Dallas, on se pose des questions sur l'entente entre Doncic, Kyrie Irving, qu'est-ce que ça va le faire. Kyrie, il va pas prolonger, c'est sûr qu'il va se barrer, parce que fin de saison en autre boudin, ça va même pas au play-in. Finalement, il reste. Mais avec les deux, ils se kiffent.
Ouais, t'as raison.
Les deux, ils se kiffent. Mmh. Vraiment.
Et ils sont dans un truc, vous parlez d'attitude, mais ça se ressent dans sa défense. Ça se ressent dans ses efforts. Voilà, on en parle souvent de suivre dans les écrans. Je vois Kyrie défendre et tout comme
si
on
pas était touché, loin dans les rester playoffs. Avec le porteur de balle et tout
il
ça.
Il fait des trucs et je rajouterais à ça la sobriété dans son jeu. T'as raison, il laisse le jeu venir à lui. Je pense qu'à un moment donné, quand même, ils vont avoir besoin qu'il mette 17 points d'affilée pour faire la décision. Il est là pour ça aussi. Mais pour l'instant, c'est un Kyrie dans le collectif. Et depuis qu'il est parti des Cavs, on l'a pas beaucoup vu ça.
Et sur ce match 2, puisqu'après on va aller sur les Clippers, l'apport aussi des restes de joueurs. Des Mavs, Maxi Kleber met un 3 points exceptionnel à la fin, parce que là aussi Lucas centralise toutes les défenses, mais Lucas a cette qualité de passe, il s'en fout sur Maxi Kleber, il sait que le Bosch il est capable de mettre dedans, donc il lui donne. PJ Washington PJ Washington qui sur le match 1 a été transparent, lui aussi prend la mesure des playoffs, il a été très bon,
il leur fait très très mal au match 2
et match 2 3 points, et même défensivement, c'est un mec qui s'oppose à Kawhi Leonard physiquement, sur le gabarit, sur la taille, c'est un mec qui s'oppose à Kawhi Leonard. Mais Lucas, c'est même sa dernière fléchette là, le dagger, mec, elle est bien pas de courbe, hein. Non, direct.
On va ouvrir sur les Clippers avec cette dernière action justement de Lucas. Moi, je reste persuadé que les choix défensifs sur Lucas doivent être, c'est quasiment, alors c'est,
ils étaient bons en match 1, les choix défensifs sur le,
c'est peut-être Lucas. Impossible, oui, mais faut pas que ça dure un match, il faut que ça dure toute une série, il faut que ça dure presque sur chaque possession. Ouais. Faut qu'il y ait rien au hasard. Moi, je trouve que dans ce match 2, il redonne à Lucas, derrière des pick and roll, du 1 contre 1 face à des pivots, et ça ne peut pas exister. Côté Clippers, je pense que c'est le grand combat de Ty Lue, c'est de dire il n'y a pas un monde dans cette série où Luka Doncic prend un pick and roll, il se retrouve face à Zubac, face à Tace ou face à Plumlee. Et sur le match 2, je l'ai trop vu.
Ça, là, t'as raison, puisque t'as un grand et que des ailiers. Alors, même si James Harden est vraiment en dessous des autres, encore que sur la dernière défense, il a fait le taf, il prend un énorme tir dans la tête. Mais quand t'as Terrence Mann, ou, allez, même Westbrook qui est.
Mais t'as raison de dire, juste, quand tu dis que c'est Harden sur la dernière action et qu'il défend pas
ses mains. Crédit quand même.
Mais, c'est pas Harden qu'on veut voir.
Tu veux Kawhi ou Paul George.
Mais non, ou Terrence Mann.
Ouais, ou Terrence Mann. Il a raison.
Ils en ont des gonzes, hein.
Ouais, c'est clair.
Oui, ils en ont, oui.
De tout changer de machin, il est trop intelligent, il est trop fort et tout, même s'il le fait beaucoup moins qu'il y a quelques années, Tyronn Lue. T'as raison, toutes les défenses doivent être défendues par l'un des trois. Ils ont trois mecs, hein. Il y a que deux gars à cacher, donc enfin, et quand je dis cacher, Luka il prend pas des pics pour après accélérer.
J'ai même envie de te dire
que là il attend que ça change.
J'ai même envie de te dire qu'à l'énergie, ce qui est un défenseur un peu spécial, tu peux même Westbrook.
Mais oui, ah, mais il va être agressif machin, voilà. Mais il a ça en tout cas en lui. Mais tu dois protéger tes gars et là ils l'ont pas protégé et ils prennent le tir et ils perdent. Donc ouais, je te rejoins complètement là-dedans. Il faut qu'ils arrivent à être intelligents. Quand Luka prend les pics très très haut, tu changes pas, tu stick, tu machin, tu reviens, t'es intelligent, t'es aidé. Et puis voilà.
Après, c'est évidemment dur à faire. Il y a bien un coach et une équipe qui savent que Luka, il te détruit sur les switches de pick and roll, c'est bien les Clippers.
Mais il y a aussi, sur le match chemin, tous les coéquipiers de Luka étaient catastrophiques. Donc ça a permis aussi de voir que ça fonctionnait la défense sur Luka Doncic. Le problème, c'est que quand t'as les mecs, les gonzes à côté qui filochent, les PJ Washington, les Maxi Kleber, à un moment donné, t'es obligé aussi de changer un petit peu ton truc. Si tu dis, tiens, les mecs sont dans un bon jour, il faut que je tente autre chose. Après, vous résumez ce match-là sur le dernier tiers de Luka Doncic.
Non. Moi, parce que sur Plumlee, lui, il en met. Sur...
Oui, non, mais je suis d'accord. Mais la défaite des Clippers, ça s'explique aussi par la pauvreté à 3 points. 8 sur 30
ils perdent en attaque, les gars,
avec énormément de tirs ouverts.
Oui.
Ils mettent pas dedans. Ils font un match honteux offensivement.
Ils perdent clairement en attaque. T'as raison. Ils perdent en attaque.
Par contre, je me suis mal exprimé. Je me remets pas sur le dagger. Je dis juste que pour moi, la clé, c'est limiter, si ça peut y arriver, Luka Doncic, et qu'en fait, ça doit être un programme d'ordinateur quasiment.
C'est dur, hein.
Toutes les possessions. Oui, je sais, mais je sais que c'est de la NBA. Au bout d'un moment, tu en es pas à N3. Donc, je me dis que toutes les possessions sur Doncic, tu te dois de dire, il y a des situations que je ne veux pas, c'est Harden sur Doncic et c'est les postes 5 sur Doncic. Voilà. Et pour moi, sur ce match-là, c'est arrivé trop souvent. Mais t'as raison, ils ne perdent pas que là-dessus. Moi, ce qui me surprend quelque part, c'est donc, déjà, il y a la réaction d'orgueil des Mavs, mais c'est que Kawhi revient. Et que quelque part, cette belle hiérarchie que t'as sur le match 1,
tout changé.
Tu ne la retrouves pas, alors que ton meilleur joueur, sur le papier, revient dans la rotation.
Déjà, ce que je trouve étrange, c'est que Kawhi revienne à 48 heures d'intervalle d'un match 1 où il a pas joué, il joue 35 minutes.
Incompréhensible.
Ça veut dire que sur un 48 heures, ton genou est guéri pour jouer 35 minutes d'un coup. Déjà, je comprends pas déjà ce management qui est fait. Est-ce qu'ils se sont dit, on a gagné le premier match, il faut absolument gagner le deuxième et on a fait le taf, donc Kawhi, on prend le risque de faire jouer? Ou alors, sur le match 1, c'est pas grave si on perd, on fait pas jouer Kawhi? Je comprends pas, en fait, le management de Kawhi Leonard. Mais ça a tout chamboulé, en fait. Ça a tout chamboulé. Et puis, il a pas joué, ça fait un mois qu'il a pas joué Kawhi Leonard. Tu le revois 35 minutes, il est hors rythme, il a pas d'impact offensif sur l'équipe. Il a mis 15 plombs, mais 15 plombs pour Kawhi Leonard, c'est un layup pour moi en NBA, en fait. C'est insignifiant. Et il a bouleversé James Harden qui était si fort sur le match 1. Bah, finalement, il s'est pas retrouvé parce que James Harden sur le match 1, c'est lui qui avait les ballons.
Moins d'impact.
Moins
statistiquement,
d'impact.
Ça se voit moins, mais il a moins d'impact.
Donc, bizarre cette gestion de Kawhi.
Mais c'est bizarre parce que, bon, franchement, on est tous d'accord là-dessus et je comprends pas non plus son retour et tout, mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin,
superstar, il veut jouer, il joue.
C'est ton meilleur joueur, le mec.
Oui.
C'est ton meilleur joueur, il revient, il peut jouer 35 apparemment. Bon, bah, on le découvre. Qu'est-ce qu'on aurait souhaité comme hiérarchie?
Regarde, j'aime bien les stats. 35 minutes, c'est ton meilleur joueur. T'as raison, Thomas, c'est ton meilleur joueur.
C'est une question que je vous pose.
Fais-lui 35 minutes. Mais moi, si ton meilleur joueur, Kawhi Leonard, qui est double champion NBA, il joue 35 minutes, il shoot pas 17 fois.
Mais comment vous voyez cette équipe? Parce que hier, dans Clutch.
25.
Bah ouais.
Dans Clutch, hier, je disais ça. Je disais, mais les gars, c'est leur force d'avoir 4 mecs. Je mets Westbrook dedans, Westbrook, et on pourrait mettre. Ils ont 4 mecs de même niveau. Voilà, ça, c'est leur force. Et là, hier, ils ont perdu sur le match 2 parce que c'était leur faiblesse. Ils n'ont pas eu de hiérarchie.
Il faut des, voilà. Pour moi, tu peux avoir 4 mecs de très haut niveau. Et tu rajoutes Westbrook, t'as réussi, tu veux. Mais dans ces 4 mecs-là, quoi qu'il arrive, il faut quand même une hiérarchie.
Ouais,
il faut quand même une hiérarchie.
C'est comme ça qu'il
faut. Parce que dire, bah, attendez, les gars. On va voir au bon feeling si le mec il se sent bien et c'est lui qui prend. Ça ne marche pas.
Alors
ça.
Du coup, je vous pose la question, c'est quoi? Tyronn Lue, il est là dans le vestiaire et dit, toi t'es la première option, toi t'es la deuxième option, c'est ça qu'on souhaite là? Enfin, je sais pas comment ça se passe. Donc
j'espère qu'ils à ce moment-là de la saison, ils en sont pas là. Hein.
Bah là, c'est ce qu'on est en train de dire. Non, moi j'ai l'impression que les Clippers jouent par le flow du match.
Après,
c'est le flow, il y a un gars qui est chaud.
Après, en saison régulière, j'avais quand même l'impression que James Harden avait compris son rôle, qu'il était pas le go-to guy de l'équipe.
T'es créateur pour les autres.
Que c'était Kawhi, Paul George et James Harden dans ce sens-là. C'est ce qui était. Ça allait dans le sens de la saison régulière.
C'est ce qui nous sautait à la gueule aussi. C'est qu'on la voyait cette hiérarchie. James Harden gère le tempo, fait jouer les mecs, amène le ballon où il faut. Et puis, moi je trouve que ce qui me gêne aussi, donc il y a que 17 tirs, et puis les situations. Il y a très peu de situations à la Kawhi Leonard, je trouve, dans ce match-là.
sur des, ouais. dans l'axe des ouais. jumpers après Rivers, après Spin.
C'est ça. Il y a peu de trucs à lui. Donc en fait, ça, du coup, ben, on lui en donne quand même, mais pas trop, mais un peu, parce que c'est Paul George. Mais du coup, ben, parce que Kawhi, Paul George, du coup, il en a un peu moins. Et alors Harden, ben, en fait, j'étais bon au premier match, il était pas là, mais du coup, là, je prends, mais là, faut que je donne. En fait, tout est fait à moitié. Et tu te fais attraper.
Bon, ils ont. Et tu mets pas un tir surtout.
Ce qui est sûr, c'est que tu vois, il y a un partout, donc ils ont perdu l'avantage du terrain pour l'instant. Il y a deux matchs là qui vont arriver. Le truc, c'est que cette équipe, elle est tellement complète, elle est tellement forte, oui, tellement expérimentée
elle
que.
Il y a partout.
Bah oui, il y aura 2-2,
ah,
non.
Oui, oui.
Il y aura 2-2.
Je sais pas parce qu'à Dallas, il fait chaud. Bon. Alors avec.
C'est peut-être le carnaval là-bas à un moment donné. Il y aura. Non mais là pour le coup les équipes sont tellement proches, elles sont fortes à l'extérieur, à domicile, tu vois.
Il y a 17 points d'écart inscrits entre le match 1 et le match 2 pour les.
Mais
pour
ils le perdent en attaque,
c'est
hein.
pas rien.
Ils, mais ouais, le perdent en attaque, vraiment,
ils ont pas de mouvement, ils mettent pas dedans, ils ont tellement de mecs qui sont capables, qui n'arrivent pas, machin. Parfois tu perds parce que t'as une panne sèche, ils ont une vraie panne sèche dans la fin de match.
8 sur 30 à 3 points et avec beaucoup de tirs ouverts, hein, avec des décalages, des mecs qui sont tout seuls, ils mettent pas dedans. Quoi. Écoute,
ça va être intéressant en tout cas ouais. de voir.
Moi j'ai envie qu'elle dure, enfin j'aimerais qu'il
en Game 7 on veut.
Oui mais ouais. Enfin Game 6, Game 7. C'est au Clippers.
Bah, si y a Game 7, c'est curieux en Game 6.
J'ai envie que ça arrête au Game 6.
Ah, d'accord. Voilà. Alors, en faveur des Clippers, du coup. C'est le gars.
Pas vraiment.
Pas vraiment.
Alors Erwan, qu'est-ce que tu cherches, mon grand ouais, qu'est-ce que tu cherches, Lucas Dantis?
On va voir de bouquer ses vacances pour l'été prochain.
Bon joueur, Lucas.
On va voir les cotes. On va voir les cotes, évidemment, du match 3. On va voir les cotes du match 3. Intéressant. Retour à Dallas, du coup. Alors, qu'est-ce que les bookies nous
voient? Moins
1,56 pour Dallas, 2,30 pour les Clippers. Elle est pas mal la cote des Clippers, hein?
Elle est pas mal la cote des Clippers. Tu vois, les 63% des gens qui ont parié vont sur Dallas. 37%, c'est très disputé. Je dirais Dallas, le fameux avantage à domicile et tout, mais les Clippers, ils vont être orgueilleux comme l'ont été les Mavs. Ils vont y aller en se disant, hey, ce qu'ils nous ont fait là, ils nous ont eu un peu à l'ancienne sur la fin, et on va les défoncer. Et j'attends une grosse entame de match de la part des Clippers. Donc, ça vous avance pas beaucoup sur un prono. Allez, avantage à l'équipe qui reçoit. Donc Dallas.
Moi, je vais aller sur les Mavs, 111 à 104.
Ah ouais, d'accord, c'est précis, ouais. Vache. Mmh. Ah, donc, un peu plus de points, alors.
Un peu plus de points.
Moi, je dis 84 à 100.
Avec Boja Malkovich. Avec Boja Malkovich en tribune.
Vous le savez, les cotes, c'est avec Winamax, notre partenaire. Et si vous voulez jouer avec nous, participer avec nous, ça se passe comme ça.
Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100€ et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre.
Chie sur le.
Ah, apparemment, ouais, en fait, de Jarrett Allen.
Ouais, qui est en train de détruire la raquette d'Orlando, mon gars.
On en parlera lundi, d'ailleurs, de cette série. Ah ouais. On va finir avec un petit sondage et deux commentaires, comme on aime bien vous demander la veille du First Day Show sur les réseaux sociaux. Le sondage était évidemment qui va passer entre les Mavs et les Clippers. Et vous nous avez répondu à 64% les Mavs. Ouais, c'est vrai que c'est fou que les Mavs, qui n'ont pas l'avantage du terrain,
c'est incroyable.
Il y a beaucoup de gens.
Ils l'ont.
Bien vu l'aveugle. Allez, on va prendre vos commentaires aussi un petit peu. Thomas, à toi de jouer.
Allez, c'est Kiev qui nous dit sur Twitter. Dallas gagnera avantage du terrain récupéré, momentum psychologique, comeback de Kawhi, défaite. Luka Doncic est le meilleur joueur de la série. Kyrie et Doncic font d'énormes efforts en défense. Westbrook est la clé pour les Clippers, mais loue le bench. Intéressant, on n'a pas du tout parlé de l'apport de Russell Westbrook. Autre commentaire, du coup, ça c'est Paul, ce bon vieux Polo qui est dans la régie et sur Instagram.
C'est Paul George.
Clippers 106. On a pu voir que malgré une mauvaise adresse et un match moyen de la part des Clippers et un bon match de Dallas. Dallas ne s'est imposé que de 3 points.
C'est faux, c'est un mauvais match de Dallas.
Avec de meilleures performances de la part des Clippers, Dallas ne pourra pas faire grand-chose. Les deux ont raison.
Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que sur cette série, les deux meilleurs joueurs de la série, ils sont à Dallas?
Théoriquement ou sur les deux premiers matchs, je veux dire?
Non, théoriquement.
Non. Kawhi, pour moi, est meilleur que Kyrie.
Doncic et Kawhi.
Ouais. C'est Luka et Kawhi, non?
Je vois que tu fais allusion à Kyrie, mais...
Oui, pas à Maxi Kleber, donc j'aime beaucoup, mais...
Paul George et Kyrie, c'est le même... Enfin, encore que, on peut en discuter, mais c'est un peu le... Tu vois, niveau en dessous des mecs qui te font gagner, qui te feront gagner ou t'ont déjà fait gagner. Et Luka, il fait partie de ça avec...
Après, Kyrie est très dur à juger parce que il y a ce tir qui donne un titre, ça quand même... Ouais, dans la perception, il y a tout ce qu'il y a après.
Y a rien,
c'est très
dur.
Moi, j'irais quand même...
Buzzer beater ma gauche,
j'irais quand même Doncic et Kawhi. Après, le problème de Kawhi...
Ça se tient, gros. J'ai aucun problème avec ça.
Après, le problème de de Kawhi, c'est comme Joel Embiid, il est jamais à 100%, quoi.
Même s'il fait sa saison la plus aboutie en termes de matchs. Bah ouais,
quand il est, il gagne. Ouais. Joel Embiid, pour l'instant, il n'a jamais été.
Exactement. Allez, on va enchaîner. On va passer avec ce match 3. Intéressant quand même. Samedi à 2h du matin.
Bah voilà, on sera dedans.
2 o'clock in the morning.
Ça se fait quand même.
C'est qui chante ça déjà?
Ouais,
c'est 2 o'clock in the morning. C'est Kanye West, hein, sans doute. Kanye,
c'est pas Dave, en tout cas, ça c'est sûr.
2 o'clock in the morning. Vas-y, on fait là.
C'est une chanson
attends,
de...
c'est quoi déjà cette chanson?
Chanson de
chien, ça.
C'est pas.
Ouais, enfin, je sais pas ce que c'est.
Dites-nous dans les commentaires qui chante cette taupe là.
C'est pas l'autre qui est en prison.
Palette.
C'est pas Arkeli.
Non, pas du tout.
Allez, cette semaine, la palette, on vous l'a dit, on était obligé d'aller sur cette dernière action et ce tir magnifique de Jamal Murray qui a offert la victoire aux Nuggets, qui mène donc 2-0 face aux Lakers. On va évidemment rentrer dans le détail de tout ce match-là, de la suite de la série, des deux premières confrontations de LeBron, d'Anthony Davis, de Jokic. Mais d'abord, on va tenter d'analyser cette action et ce tir incroyable.
Hommage à Jamal Murray après ton édito, Erwan. Palette autour du tir de la semaine, du tir de ce début de playoff. Pourquoi pas du tir de l'histoire, hein. Allons-y direct, n'importe quoi. Allons-y donc, hein, on va la regarder comme toujours, vous le savez, on déroule cette action. Si vous ne l'avez pas vu, c'est que vous habitez dans une grotte, malheureusement. Mais ça a été un match exceptionnel qui a fini donc avec ce tir fantastique de Jamal Murray sur un step back comme ça. Et puis la célébration à domicile, ça peut changer quelque chose.
Ça fait vraiment penser au tir de Kawhi sur Joel Embiid un peu.
Il y a ouais,
de
ça, ouais.
Allez, on y va tout de suite. On voit déjà le tir manqué de LeBron tout seul. On regarde d'abord l'attitude de Nikola Jokic qui dit à tout le monde, allez vous cacher, allez avancer, égalité, 10 secondes à jouer. Oui, mon Steph.
Ça veut dire que Jokic, dans sa tête, il sait que le tir est pour Jamal Murray.
Sachant qu'il y a eu un tir juste.
T'es bon.
On y va tout de suite. Il reste donc 10 secondes. Et là, on connaît l'enchaînement d'écran là, assez haut sur le terrain. D'abord, c'est KCP qui vient poser un écran à LeBron. Un premier switch avec D'Angelo Russell, mais ils se connaissent 2 contre 2.
Est-ce qu'il y a vraiment besoin de switcher là? Il n'y a même pas d'écran.
Non, gros, bah ouais, mais c'est les presets hein, défensifs. D'Angelo Russell sait que derrière il y a un autre écran et reprend en direct. On enchaîne donc, on finit sur 1 contre 1 entre Anthony Davis, un des meilleurs défenseurs de toute la NBA, et Jamal Murray, l'un des joueurs les plus clutch. On regarde à l'opposé, hein, ça a surchargé, on lui laisse un quart de terrain. Mais alors là, quart de terrain de chez quart de terrain pour pouvoir jouer dans cet espace. Ce bon vieux Jamal Murray, il a bien repéré le petit step back. On regarde hein, le timing, la gestion du timing, c'est aussi ça. Il reste 10 secondes, il n'a pas besoin de regarder en haut, il reste 1 seconde. Buzzer beater, exceptionnel. On regarde sur un autre angle aussi pour voir la différence qu'il fait sur le step back, tir, mais d'une difficulté incroyable, sur un mec qui fait 2m10. Quel tir magnifique, j'ai encore des frissons.
En faisant la palette avec Léo, je me suis beaucoup demandé, en me disant, est-ce qu'ils auraient pu faire mieux? Est-ce que finalement Anthony Davis, c'est bien qu'il soit sur Jamal Murray? J'ai essayé, tu sais, comme des fois on arrive à essayer de réinventer le jeu, est-ce que... Au bout d'un moment, t'as un défenseur exceptionnel, il est dans ses jambes, l'autre il met un tir d'une difficulté incroyable. Et c'est ma théorie de toujours, c'est que quand les grands joueurs ils ont le ballon dans les mains, ça appartient plus à la défense. Sur une dernière action comme ça.
Qu'est-ce que tu fais, ça m'intéresse, vas-y, qu'est-ce qu'il y a?
Je suis partagé.
Tiens, parle-nous à nous.
Je suis partagé parce que, vas-y, fais dérouler la palette où je m'en régale. Je suis partagé parce que, mec, c'est pas les attitudes défensives d'une possession pour t'emmener en prolongation et pour pas perdre le match. Le changement de LeBron, il est fait en dilettante. Mec,
il est cramé. Je dis, enfin, c'est pas une excuse d'ailleurs, c'est un constat. Mec,
là, LeBron, il doit rester sur Jamal Murray tout le temps.
Mais tu préfères que tout LeBron.
Au bout de la séquence.
Tu préfères LeBron sur Jamal Murray sur le quart de terrain en 1 contre 1 plutôt qu'Anthony Davis?
Moi, je dis que ça change rien.
Mec, regarde l'espace qu'il y a. Jamal Murray, il a 8 secondes à jouer. Il n'y a pas une seule fois où il y a un mec qui est venu lui mettre la pression sur le dribble en lui faisant perdre du temps, en lui faisant regarder le chrono, en protéger le ballon, en disant putain, vite, faut que je.
Il a
été peinard pendant 10 secondes, Jamal Murray. C'est-à-dire que toute la lucidité, il l'a eu 10 secondes. Il n'a pas été mis en danger, pas obligé à regarder à droite à gauche, à réfléchir, à ne pas perdre le ballon.
C'est ce qu'on avait dit avec Paul George et Damien Lillard. On disait, OK, il tire de loin, mais il est dans son rythme. Il n'est pas sous pression. Tu marques un point avec ça.
Énorme.
Maintenant, quand je vois les 5 mecs des Lakers sur le terrain, il n'y a pas un mec qui est capable de faire ça. Non, autant Paul George sur Lillard, moi je disais, gros, t'as les cannes pour le pousser un petit peu à faire des dribbles qu'il a pas envie de faire. Là, il n'y a pas un mec, pour moi, Anthony Davis, c'est par la longe et par les cannes qu'il va le tenir. S'il veut lui mettre une surpression, il va manger.
Ce que veut dire Stephen, et je vois exactement ce que tu veux dire, c'est que, en fait, là, on est en train de disséquer une action, en même temps, c'est la palette. Comme s'il n'y avait pas eu 47 minutes et 50 secondes avant, et que juste avant, t'as un tir pour gagner, et qu'il n'y a pas de temps mort. Donc, t'as pas ce truc de, les gars, on va défendre comme ça.
Gros,
ils sont cramés. et ils font un peu bah vas-y on y va comme ça, on verra. Et puis le dernier qui va défendre, c'est Anthony Davis, qui est capable de tenir Jamal Murray sur le papier. Là où je te rejoins complètement, c'est que dans les dernières actions, et même nous à notre niveau minable, quand on joue les uns contre les autres sur les dernières actions, il y a des trucs que t'as pas le droit, et il y a des, enfin il faut quand même avancer pour tenter remonter, de faire quelque chose.
Remonter de balle peinard. Hein.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ils ont pas réussi à être proactifs.
Mec, il est en peignoir, il va au sauna avec, les chaussons de l'hôtel 5 étoiles. Enfin,
hein. Les deux mecs sont capables de mettre un peu des pressions tout à l'heure, c'est Gabe Vincent et Spencer Dinwiddie, et c'est bien mieux pour les Lakers qu'ils soient assis sur le banc.
Mais après, est-ce que veut dire Steph, c'est pas
une pression. Mais je te parle pas de mettre une pression pour gagner la balle.
Bah oui.
Je te parle de mettre une pression pour faire cogiter le mec, regarder le chrono, faire attention à pas perdre le ballon, tu vois, être concentré sur autre chose. Parce que là, Jamal Murray, il est concentré sur.
Moi, je pense que. Regarde. Quand on a découpé la palette avec Léo, on le prend exactement sur le tir raté de LeBron. Parce que mine de rien, c'est un tir pour la gagne.
Oui.
Et que depuis 3-4 minutes, ils arrivent plus à marquer. On va y revenir tout à l'heure.
Mais il y a le tir juste avant de Jamal Murray, avec un tir à mi-distance, mais dans le flow du match.
C'est ça. Oui. Donc, ils ratent ce tir qui potentiellement peut leur offrir la victoire. Donc, ils sont dans un moment, et on a beau dire, ah, c'est la NBA, c'est pas normal. Ça marche comme ça. Tu rates ce tir grand ouvert à 3 points qui peut mettre une pression énorme sur les Nuggets. Derrière, tu baisses la tête et tu vois qu'ils y sont, que finalement ils sont
pas si. Il fait 1/2 lancé, je crois, avant, en plus, LeBron.
Ouais, non, mais il en laisse un peu.
C'est vrai, ils sont un peu en mode automatique.
Voilà.
Il y a plus de regain d'énergie, mais en même temps, de quoi on parle? C'est le plus haut niveau dans un match extraordinaire, ouais. Tu mènes de 20
points. Mais ça reste un tir.
Ben oui.
C'est pas, il est pas là, peinard. Ça reste un tir d'un niveau d'exception. Anthony Davis, la longe qu'il a, la séparation qu'il arrive à faire avec Anthony Davis, parce que quand il le joue, il est dans ses cannes, hein, Anthony Davis. Ouais. Il crée un écart. C'est incroyable.
Il a jamais mal au cul, hein, sur le tir.
Ah, putain, et pas qu'un peu. Du coup, il y a 2-0 pour les Nuggets.
Ouais,
on est sur une équipe deuxième, champion d'en titre face au septième. Et honnêtement, quand on regarde ces deux matchs-là, c'est pas la sensation qu'on a. On a vu deux super matchs de basket. On a vu des Lakers très bons dans
tête haute. Tête haute, et à 2-0. C'est alors.
Pas payé.
Psychologiquement, c'est dur, hein, de rentrer à LA en étant à 2-0.
Six défaites d'affilée, du coup, pour LeBron en playoff, hein.
Et puis la série contre, contre les Nuggets, ça fait 10 de suite. Mec, tu rentres à LA. T'es à 2-0 alors que t'as joué deux matchs de basket de très haut niveau, que t'es à plus 20 chez champion en titre qui a perdu 8 matchs cette année dans le Colorado. Il faut être costaud, hein. J'espère que LeBron, le speech dans le vestiaire, que Darvin Ham, ils ont ça va être dur, hein. Ça va être dur de se remettre au turbin. Alors, encore une fois.
C'est le motif de la journée.
T'es à 2-0, tu rentres chez toi, à LA.
Température clémente,
Bermuda.
Bermuda craquette,
tu redescends d'altitude. Bon, voilà.
C'est bête.
La fresque de Kobe, Tupac Shakur, dans la rue. C'est cool. Mais moi, je vois pas comment les cas, s'ils peuvent s'en sortir. Et pourtant, il fallait bon match.
C'est quoi s'en sortir?
4-1.
Voilà,
le truc c'est que
4-1.
Alors j'ai deux trucs, j'ai soit la raison qui me dit bon bah ils vont perdre 4-0 4-1, on est sur la même chose que la finale de conf l'année dernière, ils sont juste plus forts, même quand ils sont moins forts dans un match, ils gagnent, mais
oui.
Voilà, point. Ça c'est le constat brut. Et puis il y a l'autre truc où tu dis, tu sais, quand tu kiffes une équipe, t'as toujours ce petit espoir, cette petite flamme,
je te comprends.
Le fait que tu reviennes à domicile et que t'as fait vraiment deux bons matchs et que t'as, en fait, ils l'ont la recette pour gagner, ralentir le tempo, défoncer archi servir Anthony Davis, défoncer cette équipe à l'intérieur, qu'il y ait 2-3 mecs qui mettent 2-3 tirs, comme dit D'Angelo Russell ou Austin Reeves, parce que je parle pas de Spencer Dinwiddie et de Gabe Vincent qui sont catastrophiques, mais voilà, tu l'as la recette. Donc la question, c'est est-ce que tu peux.
Non, mais là, t'es sous pression.
T'es sous pression, mais au bout d'un moment, perdu, fais-moi un grand match, lâche les chevaux.
Mais ils l'ont fait le grand match.
À domicile, quand t'as plus rien à perdre, ça n'a rien à voir. Tu vois, là, t'es mené 2-0, il y a 3-0, c'est super. Là, c'est jouer libéré.
LeBron, et on va le voir en tableau après, Steph, LeBron, il est exceptionnel sur ses deux premiers matchs, Steph, vas-y.
Oui, il est très bon. Par contre, il y a un problème, et il y a un truc que j'ai pas aimé de Darvin Ham en conf de presse. C'est quand il s'avoue quasiment qu'il n'a pas de solution pour Nikola Jokic. Quand il dit « je ne sais pas comment faire pour stopper Nikola Jokic ». Et mine de rien, c'est quand même un aveu de faiblesse. Tu peux dire que Jokic est fantastique. Tu ne peux pas dire en étant 2-0 en série play-off, dire « je n'ai pas de solution, moi, en tant qu'entraîneur, pour stopper ce garçon-là ». Le message, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que tu envoies Anthony Davis, qui est quand même ton soldat intérieur, parce que mine de rien, « j'ai pas de solution », ça veut dire qu'il se fait casser la bouche.
C'est un constat.
Donc tu vois, ce discours-là, je ne l'ai pas aimé de Darvin Ham. Je reste persuadé qu'il va tenter de faire des choses. Mais.
Par rapport aux joueurs, si t'avais été joueur dans cette équipe.
Moi, ça m'a emmerdé que mon coach, il arrive en conf, il disait, ce mec-là en face, qui est notre adversaire, il est trop fort pour nous, on n'y arrive pas. Non.
Ça, les joueurs, vous en parlez, quand, tu vois, dans ta carrière et tout.
Oui.
Il y a un gars,
oui,
vous en parlez direct.
Oui.
Ça me tue.
Ça t'est déjà arrivé, toi, de jouer une équipe où tu sais qu'ils ont un avantage, tu sais, t'es pas si loin que ça, mais ils ont un avantage psychologique énorme sur vous?
Ça t'est déjà arrivé. Dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, c'est intéressant. C'est pas une équipe que tu rostais tout le temps, tu vois.
Pas vraiment, parce que j'ai beaucoup, j'ai battu tout le monde, moi, donc j'ai pas vraiment de. Non, j'ai pas de truc en tête comme ça. Mais tu sais que quand tu joues les meilleurs joueurs, par exemple, à l'époque, il y avait Mark Salliers qui était poste 4 à Rouen, qui était un mutant. Et mais tu t'es dans ta tête, tu disais pas bon, il est trop fort, c'est impossible. Même le coach, quand il préparait le match, il disait pas, tu faisais des trucs pour l'arrêter, tu vois. Il y a pas de. Et si t'en mettais 25 dans le vestiaire, tu disais pas, mec, il est inarrêtable. Tu disais, ah, vas-y, bon, la prochaine fois, on va lui casser la bouche. Il y avait pas de, tu baisses ton falzar et oui, t'abdiques pas en fait.
J'aimerais qu'on vienne, on parle du match 3 et c'est intéressant sur, mais en même temps ça, la fin du match 2 peut être aussi des éléments de réponse pour le match 3. Ils perdent sur ce tir de Jamal Murray, ils se le perdent aussi, ils sont quand même à plus 20, ils se le perdent avec 4 dernières minutes ultra mal gérées. LeBron a une bonne séquence mais on le voit beaucoup plus, ils perdent complètement d'alternance. Anthony Davis qui a été pointé du doigt, mais moi un mec qui touche pas la balle, je vois pas comment il peut marquer de panier alors que pour moi il fait un match exceptionnel de stade, d'attitude. Il y a un truc que j'ai plus vu dans les 4 dernières minutes aussi, c'est cette espèce de petit jeu à deux pick and roll central LeBron AD avec le short roll, la petite passe à terre où là-dessus ils ont eu, les Nuggets ont eu du mal à défendre, ils ont dû s'adapter en notamment lâchant un shooter dans le corner que les Lakers ne sont pas allés trouver. Là-dessus, si, quand ils vont faire la vidéo, oui, il y a des choses peut-être pour essayer d'appuyer là où ça peut un peu faire mal aux Nuggets.
Grave. Le truc, c'est que c'est la différence entre une bonne équipe et une excellente équipe. C'est exactement la différence entre les Lakers et les Nuggets. C'est que ce sont deux très bonnes équipes de basket. La différence entre l'une et l'autre, c'est que dans les fins de match, il y a une équipe qui a un plan, il y a une équipe qui va faire les bons plays, il y a une équipe qui va trouver le bon gars à l'opposé, qui va faire le bon pick and roll, alors que l'autre, plus ça va, l'air va se rarifier dans la fin du match.
Plus ça joue freestyle.
Voilà. C'est LeBron qui restera, qui goad pour certains et tout, bah, il prend le takeover total sur son équipe, il a failli gagner comme ça dans ce match, on peut le dire, mais il perd parce que, à un moment donné, il y a plus de mouvement, il y a plus rien, il dribble, il a gagné toute sa vie comme ça, il ne changera jamais, je pense, il est même encore trop fort pour penser qu'il gagnera autrement. Mais voilà, c'est la différence entre ces deux équipes. Les Nuggets, on loue leur fin de match. Ils sont trop forts, ils ont trop d'options.
Denver, tout est carré, mec. Le tir à 3 points que met Michael Porter Jr. à la fin pour revenir dans le match, là. C'est sur une action.
C'est bien que t'en parles. Lui, il est extraordinaire.
Oui. Il est énorme, mais tout est carré. Mais à l'image de la palette, rebond. Ils savent déjà qui va prendre le tir. Ils savent, Jokic sait que c'est le meilleur joueur du monde. Le tir, il n'est pas pour lui. Il le sait, il dit à tout le monde, ligne de fond, écran, et après c'est Jamal. Tout est carré, ça veut dire que tout est préparé en amont sur ces situations-là. Il y a égalité, c'est Jamal Murray, on fait ça, tout est... Les Lakers, c'est bon, c'est... Alors, il y a peut-être le cerveau est moins oxygéné que...
Irrigué que celui
des Nuggets, et ça joue un peu à l'emporte-pièce. Denver, tout est propre. Le tir à 3 points, Michael Porter Jr., hop, extra passe, orientation du jeu, ping, 3 points. Tout est carré.
C'est pour cette raison-là que c'est la meilleure équipe du monde. Voilà. C'est pas de la. Franchement, les Lakers contre n'importe qui d'autre, ils auraient gagné le match là. Tu vois, l'année dernière contre les Warriors, les machins dans les fins de match, c'est eux qui ont réussi grâce à Austin Reeves et tout. Là, c'est juste que cette équipe, elle est particulièrement forte dans les money time, comme on a rarement vu ces dernières années, à part peut-être les Warriors de KD. Dur de dire de KD.
Qu'est-ce qu'on imagine pour la suite de la série? Honnêtement, moi, je vais pas vous dire, je crois à une qualif des Lakers. J'y croyais pas au début. J'y crois encore moins après les deux premiers matchs quand je vois le niveau des Lakers. Et en plus, bah, ils perdent malgré tout. Moi, j'ai envie de croire qu'ils vont en prendre un. Et je leur souhaite parce que ça serait vraiment très sévère. Mais je pense qu'ils vont en prendre un et le match 3.
Je pense qu'on prend le match 3, ouais. Moi, je rêve qu'ils prennent le match 3 pour un truc simple, parce que si tu gagnes le match 3, mine de rien, le match 4, devient hyper intéressant. Voilà. Alors que s'il y a 3-0, il y aura 4-0. Oui. Donc, moi aussi, j'avais dit 4-2, en pensant qu'ils allaient faire peut-être un coup à l'extérieur, j'y croyais pas beaucoup. Écoute, on y est, hein, 4-2, faut gagner le prochain match, hein. Il y a une possibilité qu'ils gagnent. Infime.
Oui, moi, je te dis 4-1. Maintenant, mine de rien, même s'il y a 2-0, les Lakers m'ont surpris agréablement. Sur cette capacité à jouer les yeux dans les yeux avec.
L'année dernière, déjà, c'était le cas. Les 4 matchs étaient archi serrés. Les équipes sont proches, franchement.
Ouais, mais l'année dernière, ils sortent d'un run, d'une fin de saison régulière cool, d'un run de playoff incroyable. Okay, on se dit, OK, là, il y avait un peu plus de doute quand même. Hein.
Mais les 4 money games.
Non, mais. C'est moins surprenant.
Je pensais que ça allait prendre 4 fois 20, tu vois. Non, on pensait que ça allait être serré.
Moi, je les voyais se faire détruire.
Ah ouais,
Lakers,
ok.
Moi, j'avais plus de certitude l'année dernière sur les Lakers.
Ils ont trop d'expérience, trop de force dans cette équipe. Ils sont capables aussi ils l'ont montré l'année dernière, de défendre. Moi, j'étais sûr qu'elle allait avoir que des matchs serrés. Et encore, ils font un match 2. Je pensais pas qu'ils pouvaient être aussi forts.
Après, est-ce qu'ils sont capables d'enchaîner des performances comme celle-là?
Oui, on saura quand. C'est quand même
une équipe qui sort du play-in, quoi. Donc,
what is the next game, please? Schedule.
C'est ce soir ou demain soir?
Tiens, je l'ai pas.
C'est demain soir, je te dis si tu veux.
Non,
Erwan, je suis devant. Attends, je te dis si tu veux finir.
Comment, mais.
Non, mais écoute, de toute façon, voilà, on a tout dit. Dites-nous dans les commentaires, évidemment, si ce que vous voyez pour cette série. Certes, les Lakers sont vaillants, mais les Lakers paraissent, comme on dit, si près, si loin.
C'est ce soir à 4h. Ce soir, vous avez Cavs the Magic, Knicks Sixers et donc Lakers Nuggets.
15 Magic, elle passionne pas grand monde, hein, j'ai l'impression.
Oui, je suis assez surpris que le Magic soit mené 2-0. Mais on en parlera lundi, promis, dans la libre antenne.
J'arrête à l'année, il chie sur le...
Je crois qu'on l'a compris. Pardon. Tu sais qu'il y a un autre qui chie sur une...
Oh truc.
C'est moi sur le quiz.
Oh. Quiz.
Allez, qui dit fin d'émission dit quiz, et qui dit grosse émission dit quiz un peu punchy, les gars. Il va falloir mettre du rythme, hein.
Bonjour Thomas.
Merci les gars pour le rythme. Là les gars, vous êtes prêts?
On est prêts,
on est chaud.
C'est quoi mon gros? T'es bien? T'as fait un bon quiz?
J'ai fait un bon quiz. Ayman m'a aidé sur les petites questions rapides comme d'hab. Et d'ailleurs, on a fait une spéciale pour toi, spéciale Mavs.
Oh, c'est gentil.
Voilà, merci. Pour essayer de te faire briller un peu.
Franchement, Steph, on a l'impression qu'il a été drafté par les Mavs.
J'ai fait les Summer League.
C'est juste un fanboy.
Le France à prime.
Non, t'as joué contre eux, non?
Bah ouais, j'ai joué contre Pavel Podkolzin, un russe de 2m28, mon gars, qui faisait la Summer League avec les Mavs.
Ah bon,
Gaillard.
Quoi après?
Maxime Giovanni, il lui a tomard dessus.
Ah ouais. Oh le Max.
Le Max. Mad Max, il mettait des beaux.
Max,
il en mettait des beaux. Hein.
Et pas que les dunks, je te le dis.
Belle histoire. On part sur le quiz?
Oui.
Allez, question rapide, il y en a 6 de rapidité. Ça va très vite. Qui est le meilleur passeur de l'histoire de la franchise des Mavs?
C'est John Stockton.
Non.
C'est Jason
Nash.
Non.
Ah, c'est Avery Johnson.
Non.
Oh, c'est Jet
Terry.
Lucas.
C'est
Luka Doncic.
Déjà.
Derek Harper.
Ah,
on était mauvais là-dessus.
Très bien. Stockton, il a jamais joué à Dallas.
Donnez-moi.
John Stockton.
À part Dirk, donnez-moi un joueur Hall of Fame passé par Dallas.
Hall of Fame.
À part Jason Kidd.
Ouais, Jason Kidd.
Steve pas
Nash.
Encore.
Steve Nash.
Steve Nash.
Non, ils sont pas encore.
Ah, ils sont pas. Attends.
Rodman.
Stojakovic. Les quatre noms bien. Rodman.
Stojakovic,
Nelson, Dantley et Alex English.
Ah putain,
voilà,
ouais.
Que j'avais.
Ah, c'est pas mal ça.
Trop de mal.
Donnez-moi un maillot retiré à part celui de Dirk.
Il y en a pas.
Ah, j'en ai 4.
Ah merde.
Si.
Si.
Ah, comment il s'appelle?
Blackman.
Orlando Blackman.
C'est moi qui l'ai dit, Blackman.
Blackman, t'as dit.
Blackman.
Blackman.
Il y a aussi Brad Davis, Derek Harper.
Et ah ouais.
Les frères Harper dans les Tom.
Ah oui, c'est vrai.
Kobe a son maillot retiré.
Adore
les frères Harper.
Qui a inscrit le plus grand nombre de points avec le maillot de Dallas?
C'est
Dirk.
Vous avez dit qui?
Dirk.
Non.
Quoi? Mais il est 7. Qu'est-ce que tu racontes?
Le nombre de points. C'est dit 3 points?
Le nombre de points.
Dirk Nowitzki, il a 30 000 points.
Mais sur un match.
C'est qui ce mec là?
Oh, je veux bien mettre.
C'est catastrophique.
Je veux bien mettre du jus.
Je veux bien mettre du jus, mais si. La dyslexie, c'est compliqué.
Ah ouais, sur un match.
Bah, il manque un bout de la phrase.
Bah, c'est Lucas.
C'est Lucas, ouais.
C'est Lucas, merci.
Ah, ouais. Oh la vache.
Il l'avait pas mis dans la phrase.
Thomas et Steph qui hurlent.
Ouais, désolé.
Quand t'es au milieu, gros, je.
Imagine un podcast. Hein.
Ah, ouais.
Et pour finir, qui a le plus gros pourcentage? Le plus gros pourcentage à 3 points de l'équipe cette saison.
Josh Green.
Kyrie Irving.
49% à 3 points.
Oh, c'est Kleber?
C'est pas Kleber parce qu'il fait une saison cata. 49%.
49, c'est énorme. Ah, bah, Tim Hardaway,
il n'est pas américain.
Josh Green.
Non, Dante Exum.
Dante Exum.
Ouais. Exceptionnelle saison, Dante Exum. Bravo, mon grand.
On passe direct au qui suis-je?
Il a eu son diplôme, il a passé ses exams.
Tu veux une petite énumération?
Oui, en même temps, de toute façon, elle dure 1h45.
Énumération rapide, alors. Vas-y.
Polo, il n'est pas content, mais.
Je sais, je lui avais dit que je ne faisais pas l'énumération.
Donc, tu l'as fait, sympa.
J'ai 13 joueurs devant moi.
13?
Qui ont joué les finales 2006 avec Dallas.
Ouais.
2006, oh.
2006 a perdu contre ce chien de D-Wade.
Steph, tu commences.
Steph, commence.
Moi, je commence?
Oui. Mm-hmm.
Ouais, Dirk Nowitzki.
Dirk Eta.
Dirk Eta, ok.
je me repose dans mes trucs là.
Je struggle comme ça, direct.
Moi aussi, je struggle. Hein.
2006.
Cette équipe-là, gros.
Oh, je veux dire. Brian Cardinal. Oh, je suis obligé de faire. Ouais. D'aller vilain comme ça, direct.
Il était bon, il est bon, moi.
Brian Cardinal, il est pas là.
Il était en 2011. Hein.
2011.
Moi, j'ai Josh.
Josh Howard.
Tu vas donner les réponses pour les gens.
Allez, j'en ai un autre.
Josh Howard, c'est bon?
Oui.
J'en ai un autre. J'en ai deux.
Dampier, je reviens dans le game.
Ok, t'es là. Eric Dampier. T'énerve pas.
Enchaîne. Allez, Stephen, vas-y.
T'es sérieux? Je veux dire Devin Harris.
Oui, je l'avais. Marquise Daniels,
c'est là.
Ah, pas mal.
Tu joues encore?
J'essaie, j'ai pas longtemps. Hein.
Oh, ça remonte à long, en même temps, c'était à 20 ans.
Il reste un gars du 5 majeur, si je peux aider Erwan.
Waouh, c'est terrible.
Allez, mets un chrono parce que sinon, Polo va pas être content.
Allez, 10.
Finir, bref. Belle participation.
Ils ont pas Kiss Van Horn sur le banc?
Il est là.
Oui. Oui. Bravo.
De l'eau de là.
Ouais.
Fais les Babtou que tu cites, toi. Putain, j'avais un mec. Je vais tenter Michael Finlay.
Bah oui.
Michael Finlay.
Ah non, les Spurs.
Je l'ai pas.
Tant pis, c'est dommage.
Catastrophique. Oh la vache, 2006, c'est dur, hein. Beaucoup plus dur que j'imaginais.
Il y a un vrai gars qui sera encore là pour le 2011. Titre.
Brandon Haywood. Pas du tout.
Non. Jason Terry.
Jason Terry.
Ah, il est déjà allé en 2006, Jason Terry.
Ouais, il y avait aussi Adrian Griffin, je sais pas si vous l'avez
non,
dit.
Non, non, non.
Il y a Diop qui est là et qui est dans le
Saga. Ah, ouais.
Il y a Steakhouse.
J'ai Steakhouse.
Mbenga, Armstrong et Josh Powell.
Ah ouais.
Voilà.
Bien sûr, Mbenga. Un mauvais, hein.
Allez.
Pas bon.
On se met directement dans le qui suit.
C'est ça qui compte. Qu'est-ce que t'as,
je suis
il vient de contracter ses fesses, incroyable.
Tu vas faire pipi.
Non mais vraiment, il a contracté.
Je viens de faire ça à Steph.
Quel stress.
Tu contractes ton urètre.
Allez, on commence le kit-sud.
Travaille ton périnée.
Je suis né...
Être ou urètre.
Les gars.
Être ou urètre, telle est la question.
On est vraiment au PMU.
Oh là, c'est... Là,
je
c'est
suis né le 1er juillet 1990.
Ouh, si je perds là-dessus, j'arrête de... C'est moi, je vous l'annonce, si je perds là-dessus, c'est mon dernier quiz de l'année.
Il joue encore.
C'est ton dernier quiz de l'année.
C'est mon dernier quiz si je perds là-dessus.
Et j'ai donc 33 ans, et la dernière fois qu'on m'a vu sur les parquets, c'était avec Denver en 2022.
Il a déjà pris sa retraite.
Mais, commençons par le commencement. Mon cursus universitaire est à l'image de ma carrière. Je ne m'installe jamais. Je fais une année dans la fac de Oxnard, une autre dans la fac de Ventura, avant de finir mon cursus à Long Beach State de 2011 à 2013. Je t'ai donné trois facs. Hein.
Ouais.
Lors de ma saison senior, je tourne à 16,5 points, 6,7 rebonds, 1,8 steals et 1,3 blocs par
match. Will Steele, le coach de Reims.
Dans mon scouting report, on parle d'un joueur athlétique, un défenseur honnête, mais un peu frêle. Je me présente à la draft 2013, où je serai sélectionné au second tour, à la 50e position, par les Hawks. Mais mes droits seront transférés le soir même au Miami Heat.
Qu'est-ce que joueur obscur.
Miami veut m'envoyer en D-League pour me développer, mais je refuse car je gagnerai trop peu d'argent pour aider ma famille. Je partirai donc en Australie un an jouer à NBL, où je terminerai sur le podium du MVP, là-bas.
Okay.
En juillet 2014, le Heat me signe pour plusieurs années après une bonne Summer League.
Dorsey ?
Non. Lors de ma saison rookie, je sors du banc. Je suis le backup de Luol Deng et je joue 17 minutes en moyenne. On se souvient de moi notamment sur un poster sur Rasuel Butler.
Josh Childress ?
Hein ? Non, il a joué à Miami.
L'année suivante, je suis tradé avec Mario Chalmers chez les Grizzlies.
Wow.
Et j'arrive dans une équipe où il y a du monde sur l'aile. Jeff Green, Matt Barnes, Tony Allen, Jamichael Green, Vince Carter. Autant dire que je ne joue pas. Mon contrat est coupé et j'atterris aux Pelicans pour 9 matchs. J'y fais un très bon passage, 16 points de moyenne en 9 matchs. Cette fin de saison va intéresser une équipe.
Oh, Pelicans, il est là ?
Ouais.
Avec DeMarcus Cousins.
Cette équipe, c'est les Grizzlies encore. Et oui, en 2016, ils viennent de re-signer Mike Conley et de recruter Chandler Parsons. Ils veulent alors ramener Eric Gordon, qui choisit finalement les Rockets. À la place, ils se rabattent sur moi après ma bonne fin de saison dernière.
C'est qui ça ? Tu l'as ? Oh là là, je suis nul ! Pff, ça me saoule !
J'ai aucune vision dans ma tête.
Hein. J'enfile le numéro 8. À Memphis et je joue 23 minutes en moyenne dont une vingtaine de matchs dans le 5. Je deviens au fil des années un vrai Shuendi.
Kayan Dooley.
Oh je l'ai je crois.
Dooling.
Oh je l'ai putain.
La saison suivante je repars sur les mêmes bases mais après Miami et Memphis je vais enchaîner deux franchises en un an. Détroit avec le numéro 33.
Austin Days.
Non. Puis Houston avec le numéro 8.
Chavin Mack.
Non.
Pas du tout, j'ai n'importe quoi. Il était Hawks.
Chez les Rockets, vous pouvez vous souvenir de moi. Je suis dans le 5, lors de 25 matchs avec les Rockets, version Harden et Chris Paul. PJ Tucker poste 4, qui appuie la pivot, et moi sur l'aile.
Trevor Ariza ?
Non. Encore une fois,
c'est qui ça ?
Je vais être tradé en cours de saison.
Ah, wow. Attends, me dis pas non comme si j'étais une merde.
Pas de tension, les gars, il y a beaucoup de franchises. Encore une fois, je suis tradé en cours de saison.
Rockets.
Dans une franchise à l'Est, cette fois-ci. Mais voilà, chez les
Corey Brewer ?
Chez les Sixers.
Quoi, Steph ?
J'arrive chez les Sixers.
Bon, frérot.
Je m'installe dans la rotation derrière Tobias Harris. Je change de numéro. Je porte désormais le numéro 11. Mais je garde toujours mon manchon au bras gauche.
Mais c'est qui ce mec là ?
Je suis important.
Tony Vroten ?
Non. Je suis important.
Jérôme ?
Dans les.
Allez, donne le qui suit à Steph, c'est bon. Tony.
Je suis important dans le run des playoffs de 2019.
Avec les Sixers ?
Avec les Sixers.
Enfin, tu m'as perdu.
21 minutes de moyenne avec notamment un énorme gain 2 contre les Raptors. Mais les futurs champions sont trop forts pour nous.
En gros, je l'ai pas du
ah ouais,
tout.
J'ai même pas le moindre
Rockets au Grizzlies.
J'aime pas sa teuté, rien.
J'ai bientôt fini. La saison suivante, je suis tradé une nouvelle fois en cours de saison. Mais là, promis, je m'installe pour un an et demi. Et si vous vous souvenez pas de moi là-bas, ça va être compliqué. Après Miami, Memphis, New Orleans, Détroit, Houston et Philly, me voilà à Orlando. Rare dans ma carrière, mais je suis starter durant mon année et demie en Floride. Je suis dans le 5 avec Evan et j'inscris 8,4 points de moyenne. Toujours avec le numéro 11. Toujours avec
Aaron Afalo.
C'est pas Jonathan Simmons en tout cas. Oh, gros, je l'ai pas du tout. Un ailier au Orlando Magic. Ouais. Avec Evan.
Nous sommes en
titulaire.
Ouais, titulaire. Nous sommes en 2021 et mon corps me lâche.
Gary Harris?
Non. Je vais terminer ma carrière un an plus tard.
Il a raison. Au bout d'un moment, faut envoyer.
Je termine ma carrière un an plus
Garrett
tard.
Temple.
Le temps de faire trois franchises, mais c'est que des 10-day contracts. Deux matchs à Brooklyn, deux matchs les Clippers.
Initial.
Avec le numéro 10 et trois matchs avec les Nuggets.
Initial.
Tu peux nous redonner ces franchises et après, parce que là, on est tellement mauvais de toute façon.
Il y a 10 minutes.
Je sais, mais là, gros, il faut que je me reconcentre. Ah, Jérôme Rotten, ça m'a sorti du game.
Hein. J'y retourne. Il fait donc Miami, il est drafté là-bas. Memphis. Il fait un court passage.
Tony Batty.
Aux Pelicans. Memphis à nouveau.
Quoi, j'ai pas hâte de donner des noms. Bon.
Détroit. Et là, vous vous souvenez, normalement, c'est Houston, Philly, Orlando. Houston, Philly, Orlando, un poste 3. Où il porte le 8 et le 11. Il est pas
initial.
Non, voilà.
Ah si.
Il a un chiffre dans son nom.
De Serd.
De Serd.
Gary Payton de Serd.
Arrête. Je peux pas me concentrer. Non, franchement, on l'a pas. Personne n'est là. Là,
Payton, ouais.
Ah, là, franchement,
on
l'a
pas.
Initiales.
Ouais. On va pas faire les initiales.
Bah
vraiment,
si, on aura perdu. C'est pas grave.
C'est pas Silo, c'est pas lui.
Non. J-E.
Jérôme Edward de Serd.
Oh, je
vous le donne.
Bah oui, on l'a pas.
C'est James Ennis de Serd.
Waouh, wow, putain.
James Ennis.
Ah ouais, son frère, c'est Brice.
Brice de Nice.
Ah ouais.
Ah, il est pas cadeau.
Ah, bravo. Ah, tu nous as bien eu. C'est rare, mais là, tu nous as combattu. James Ennis. Passé en Australie et tout.
Oui, maintenant, je le vois.
Titulaire avec les Rockets. Waouh.
Titulaire avec Orlando.
Avec Orlando, je m'en souviens.
Bien sûr.
Avec Philly et tout, mais là.
Bravo. Dommage, les gars.
On a fait une excellente émission. On s'arrête sur ce truc cata.
Le premier de l'année.
On se retrouve lundi, en tout cas, pour la Libre Antenne. On aura encore une fois plein de choses à dire sur la suite des playoffs. Et puis dimanche.
Bilal, quand les barres, là on change tout, hein. Oh la vache.
Bilal, c'est vrai que là, ça va se faire ici, là, on va tout faire. Bilal, dimanche midi, lundi la Libre Antenne, et puis la suite des semaines, faire sim, vous en avez l'habitude. Merci Tom, merci Thomas, merci mon Steph, merci Jérém, merci Léo et Polo en régie. Et on n'oublie pas Imen qui est en cours cette semaine. Donnez-lui de la force.
Merci.
Donnez-lui de la force.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.